signe. Il y en a peut-être un de plus.
On dit extraordinaire quand on
dirait un article de Martin Pelletier. Jean-Pierre Rondeau. Bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Ben, je vais bien.
Est-ce que l'année va être bonne pour les gens qui, comme moi, ont un peu d'argent à placer?
Ben, il faut. Elle devrait être bonne. C'est difficile à vous répondre comme ça. Elle devrait être bonne en partie dans une certaine prudence action, en ne touchant pas aux obligations, aux emprunts. Et les monétaires ne rapporteront pas beaucoup, mais c'est la sécurité et reste des actifs de contrat d'assurance qui amènent une certaine sécurité. Voilà. Donc, on panachant tout ça, on peut arriver à faire quelque chose.
Pas encore cette année, je vais te garder.
Mais voilà.
Si je mets, mettons que je place 1 euro, là, tout de suite, aujourd'hui, à la fin de l'année, je peux espérer avoir gagné
alors,
combien?
Alors, en sécurité, je peux vous rendre 4 euros.
Si je vous donne 1 euro,
m'en non, pardon, 4%, pardon.
Ah, 4%.
Donc, 1,04.
Je serais même jusqu'à 10
et
euros.
Et si je vous fais prendre des risques, eh ben, je peux vous rendre peut-être 1,70
ou rien.
Ou vous avoir fait.
Ou la prison.
Et vous rendre 0,50 euros. Voilà.
C'est pas un bon plan. Mais vous, Marquis, vous avez plein de fric. Marquis, ça a de l'argent.
Non, mais qu'est-ce qu'il me fait, là?
Non, mais parce que j'essaie de vous donner un conseil.
Voilà.
Mais
vous savez ce que j'étais en train de penser?
En fait, il essaye de percevoir une commission.
J'étais en train de penser que, de toute façon, je le garde.
Qui?
Mon fric.
Bah,
et,
raison.
Et que lorsque le banquier a commencé à me titiller parce qu'il trouvait qu'il y avait un dépôt qui avait été correct.
Ah, mais moi, il en a quand même, donc
tout
vraiment.
Tout à fait normal. Je lui ai dit, bah, répondez à tous les courriers que je vous ai envoyés depuis des années pour vous poser des questions. Puis après, on verra ce qu'on peut faire.
Jean-Pierre Chérigues, marquis de Hormetta.
Jean-Pierre.
Jean-Pierre,
c'est moi.
Gaga.
Faites penser à l'histoire du type qui appelle son banquier et qui lui dit
oui.
Monsieur le banquier, je vous signale que j'ai 1200 euros sur mon compte.
Voilà,
je vous le dis, voilà. Bon, je vous remercie, au revoir. Puis le lendemain, il rappelle. J'ai 1250 euros sur mon compte. Oui, bah d'accord. Bon, bah et alors bah, je vous le dis, voilà. Puis il rappelle comme ça toute la semaine. Et à la fin, le banquier excédé lui dit, enfin, vous n'allez pas m'appeler tous les jours. Bah, il dit, vous, quand j'ai découvert, vous m'appelez bien tous les jours. Pour me dire qu'il me manque 1000 euros. Voilà. Vous n'avez pas ce genre de problème, Goffman?
Non, ça va très bien sous ce rapport-là. Je suis content d'avoir enfin trouvé un chroniqueur économique pour le Libre Journal Papier.
Ouais.
Ça faisait longtemps que je cherchais avec votre aide et vos encouragements. Mais je vais pas le laisser sortir comme ça.
Mais...
Je voudrais saluer, en plus des amis de la résistance, parce que ce sont souvent les mêmes, les amis de la déclinologie.
Qu'est-ce que c'est encore que ça, la déclinologie?
Bah, la déclinologie, c'est une science qui vient d'être nommée. Alors ça, c'est de l'épistémologie, je crois, hein, la science de la science. Oui, monsieur Rondeau confirme. Donc nous, on a un grand épistémologue qui est Premier ministre.
Épistémologue.
Il a nommé hier, plus exactement, une nouvelle science, la déclinologie, c'est-à-dire tous ces gens, tous ces adeptes de la sinistrose qui émettent des variations sur le terme du déclin. Alors
Sous la main, parce que
je vois le patron de l'émission en train de bricoler la lampe, c'est quand même un bon moment de télévision.
Et ça marche à nouveau. Les auditeurs doivent être contents, surtout ceux qui ont la radio en couleur, de pouvoir mieux voir. Voilà. Alors, monsieur de Villepin, donc, après avoir dénoncé plutôt que nommé la déclinologie, il l'a réfuté en quelques mots en disant tout simplement, en faisant remarquer que la France avait 2000 ans d'histoire, point final, ce qui prouve d'une façon verticale, premièrement, que l'histoire de France a commencé quand le Christ avait 5 ans et non pas avec le baptême de Clovis, comme un vain peuple pense, et ensuite que, bon, quand au bout de 2000 ans, on a un porte-avions et qu'on l'envoie fêter Trafalgar avec ceux d'en face et que, par contre, on ne peut pas se déplacer pour fêter Austerlitz,
c'est clair que
tout va bien.
Hein. Envoyer le Charles de Gaulle pour fêter Austerlitz, ça serait quand même...
Mais ça, c'est la déconologie, tu voulais dire.
Oui, c'est ce que je pensais. Bien, toutes ces bêtises étant dites... Ah tiens, vous avez parlé de radio en couleur. Je voudrais signaler aux auditeurs de cette émission... qui me demandent parfois des conseils relatifs à la réception de Radio Courtoisie et qui se plaignent d'avoir des problèmes ou des difficultés dans certains cas pour recevoir, que je suis à leur disposition pour leur donner des explications s'ils veulent bien se donner la peine, eux, de m'envoyer un petit mot en me disant, voilà, on recevait, on reçoit plus, on voudrait savoir comment, etc.
Avec une enveloppe timbrée, quand même.
Oui, tant qu'à faire. Même mettez deux timbres sur l'enveloppe, comme ça j'en garderai un pour moi. Enfin, sur l'enveloppe à l'intérieur de l'enveloppe. Je suis clair?
Oui,
bon, ça va.
Ça va suivre.
Donc voilà ce que je voulais dire. Si tout le monde n'a pas compris, je peux le répéter en belge.
Ah, pour Johnny, oui.
Pour Johnny.
Pour Johnny.
Décidément, l'actualité est riche aujourd'hui. Hein, on a de la chance.
Hein. Oui. Eh bien, écoutez, moi, je suis très content de savoir que... Alors, qu'est-ce que vous préférez, que Noah retourne en Afrique ou que Hallyday retourne en Belgique?
Cruel dilemme.
Ah, ceux qui n'ont pas de radio du tout, autre que courtoisie, donc je commence par dire qu'aujourd'hui, Johnny Hallyday a demandé la nationalité belge.
Une fois. C'est obligé.
Et il ne le fera pas deux.
Est-ce qu'il va rendre sa Légion d'honneur, alors, non?
Mais pourquoi dire ça? Il y a plein d'étrangers qui ont la Légion d'honneur.
D'accord, je sais pas, mais parce que je voudrais savoir sa motivation. Si c'est parce que la France l'agace, il faut qu'il abandonne tout, ce qui va avec, ou si c'est simplement un hommage à son père.
Ou bien parce que la Belgique ne connaît pas de droit de succession
sur la fortune.
C'est une explication malveillante.
C'est pas bien de dire ça.
Il y a des gens qui disent qu'il est pris en main par la clique qui est autour de son épouse et qui lui a déjà fait faire pas mal de bêtises, comme de quitter sa maison de disque, comme de lancer une boîte de nuit, comme d'arrêter la cocaïne.
Mais vous lisez tous les trucs people.
Ah.
Oui. Il est vachement au courant de ça.
C'est le marquis qui me les repasse peu froissé.
Je fais dans l'aristocratie, je fais dans le people.
Le marquis, il ne lit que hola en espagnol.
J'étais étonné d'ailleurs quand on a parlé de Victoriette Delon, ils n'ont pas parlé de Cécilia.
Ben, Cécilia, elle sera prochainement dans l'émission. Là.
Elle fait la rubrique
Non seulement elle a...
Jardin.
Non seulement.
Attendez, je parlais de Cécilia Sarkozy, parce qu'on parlait de doublage du cinéma, j'ai pour doubler Cécilia, elle est pas mal dans le genre.
C'est pas Cécilia Sarkozy qui fait l'émission sur les fleurs, hein,
non. Donc Cécilia Sarkozy, elle est revenue auprès de Jacques Martin. C'est bien ça.
La championne du doublage. Oui,
moi, j'ai entendu ce matin sur les radios, ils expliquaient que Cécilia Sarkozy avait rejoint son mari. Donc,
Martin.
C'est Jacques Martin.
Jacques Martin, c'est le mari de Sarkozy, qu'est-ce qu'il me raconte là? Non, je comprends rien.
Ils sont informés, les auditeurs de courtoisie, hein. Ils peuvent être contents. Bien. Allez, écrivez, téléphonez, il y en a marre.
Alors, je voudrais quand même faire état. J'ai reçu une lettre qui m'a...
Peiné.
Peiné, comme disaient les poupées. Parce que... Non, mais justement, c'est une mère de famille qui m'écrit en disant « J'ai envoyé mon fils à l'école. Sur le chemin de l'école, il s'est fait casser la figure par des jeunes. »
Non.
Ouais. Et quand il est arrivé à l'école, ils n'ont pas voulu le recevoir et ils me l'ont renvoyé avec un petit mot en disant « Nous ne pouvons pas accepter que votre enfant fasse de la propagande politique dans les couloirs de l'école. » Alors, j'ai téléphoné à l'école en disant « Mais quelle propagande politique ?» Mais ici, quand il est arrivé à l'école, il était couvert de bleu.
Oui, d'accord. Oui, je m'hésitais bien qu'il y avait quelque chose comme ça. Oui.
Vous faites allusion, là, Serge, à une émission de RMC ce matin, où on a mis en cause notre ami Reichmann comme étant d'extrême droite. Alors, je pense qu'il faut élever là une
protestation véhémente.
Véhémente, parce que c'est quand même insupportable. J'en profite, puisque
attendez, c'est extrêmement grave, parce que l'accusation dont vous vous faites l'écho.
Nous allons y donner suite avec la plus grande vigueur. J'en profite.
Je peux témoigner que c'est pas vrai.
Ah, mais...
Non, mais je tiens...
Vous êtes bien placé.
Ben oui, parce que au début de, je sais que Claude Reichmann a commencé sa carrière en radio courtoisie dans cette émission.
Sous votre aile.
Et un jour, il a découvert avec stupeur que j'étais d'extrême droite. Et il m'a immédiatement.
Et pourtant, vous cachiez bien votre jeu.
Ah, pourtant, je cachais. Donc, j'ai vu très 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 élégamment. D'ailleurs, il m'a dit, moi, je ne peux pas continuer à collaborer.
En plus, avec un cas.
Règle des lointains, c'est envolé. Voilà. Oui.
Et donc, alors, je peux dire non, vraiment, il n'est pas d'extrême droite.
Maintenant qu'on a cité.
C'est pas lui qui a couvert l'enfant de bleu. Hein.
Maintenant qu'on a cité RMC, il faut citer France Inter et souhaiter la bienvenue à plusieurs milliers de nouveaux auditeurs. Oui. Parce que ce matin, une fois de plus, je crois que c'était il y a 15 jours ou 3 semaines, on a eu une promotion par la Folle du Roi, là, vers midi, qui recevait...
Le Folle du Roi, pardon.
Stéphane Bern, notre ami Stéphane Bern, qui recevait Elise Moon. Et ils ont une idée formidable sur France Inter. Je sais pas où ils l'ont prise. Ils lisent des messages d'auditeurs à l'antenne et des messages d'auditeurs qui râlent en général. En particulier, il y avait une dame, mère de famille catholique de Lyon, qui disait « Je suis obligé de censurer votre émission le mercredi parce que mes enfants sont là et la pornographie à haute dose, ils supportent mal, ils sont trop petits. » Commentaire d'Elise Moon, elle a qu'à écouter Radio Courtoisie. Alors, bienvenue, il a remis le couvert 5 minutes après, écoutez Radio Courtoisie.
Mais moi j'aime beaucoup Elise Moon.
Je l'adore. Alors moi je lui dis, Elie, là, on te remet une louche de pub inespérée.
Ah oui, vous êtes intime alors.
Ce serait... plus qu'intime, mais je peux pas en dire davantage. Alors ce serait la moindre des choses que d'envoyer deux places pour ton spectacle au Casino de Paris, justement c'est tout près de chez Serge, on ira tous les deux, il aura la permission de Minuit, je pense, pour une fois, hein, Daniel, il aura la permission de Minuit, on ira tous les deux voir ton spectacle au Casino de Paris. Il faut nous envoyer donc deux places de faveur bien placées, naturellement, à SDB, 4 place Francely, 75-010 Paris. Merci Élie.
Et en voiture, c'est Moon.
Alors maintenant, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais dire que... Ah oui, ça c'est très intéressant, parce que le président Chirac a recommandé d'ouvrir son cœur. Il a dit aux Français, il faut ouvrir votre cœur aux sans-abri.
Ah bon?
Alors, je veux dire, ouvrir son cœur aux sans-abri, c'est très très bien.
Ouvrir sa maison, déjà.
Son cœur, hein, j'ai bien dit.
Très bien.
C'est très bien, mais il a le château de Bity, qui sera encore mieux, quand même.
Et il n'est pas chauffé.
Hein?
Il n'est pas chauffé.
Oh, bon, ça s'arrange.
Comme ils n'y vont jamais, ils ne chauffent pas.
Quand vous voyez des jeunes, ils vont s'en occuper.
Ah, il va s'abîmer, le château, c'est pas
ça. Ça fait rien, il sera restauré à tes frais.
Ah oui, bon.
Voilà. Et puis, tiens, encore une histoire d'école. Il y a une école à Colombes où l'institutrice a fait un cours aux enfants de, je crois que c'est élémentaire première année, 6 ans, 6, 7 ans, 8 ans, c'est élémentaire
donc,
première année.
6 ans,
c'est tout préparatoire. C'est tout.
Enfin bref, donc des tout petits bouts de choux. Et elle leur a expliqué ce que c'était que l'Aïd el-Kébr. Alors il y a un gamin, qui est le fils d'un auditeur d'ailleurs, qui est rentré chez lui le soir, il a dit à ses parents, « Maman, demain, on va pas à l'école, c'est la fête. » Alors sa mère lui dit, « Comment ça, c'est la fête ?»« Oui, la maîtresse a dit que demain, c'était la fête. » Elle dit, « Mais il n'y a pas de fête demain. »« Si, si, il y a une fête, ça s'appelle l'Aïd. » »« Ah non, ça, nous, on est catholiques, on ne fait pas la fête le jour de l'Aïd el-Kébr. » Donc tu vas aller à l'école demain. Alors le gosse n'était pas tellement content.
Il remontait contre les catholiques.
Il va devenir anti-catho. Et le lendemain soir, il est rentré en disant, bah, tu vois, tu m'as dit d'aller à l'école, mais sur les 25 élèves, on était 8.
Et voilà. À Colombes. Ça se passe à Colombes.
À Colombes. Ouais. Pas à Colombes-Béchard, hein. À Colombes.
J'ai la même couleur, Serge. J'ai un copain qui est un peu réac, même un peu fâcheux sur les bords, et qui fréquente un restaurant arabe. Et alors, c'est ahuri. Il voit le cuisinier hier, et en grinçant des dents, naturellement une pétée, il fait bonne fête à El Kébr, et le cuistot lui dit qu'est-ce que j'en ai à foutre de l'Aïd, moi je suis chrétien. Authentique.
Ah bah oui, ça je peux le dire, c'est authentique. Ça m'apprendra à faire le mal. Alors à propos, on parlait de Johnny Hallyday tout à l'heure, vous savez qu'il a pas violé l'hôtesse.
Évidemment.
Non, mais vous connaissez l'histoire.
Bien sûr.
Voilà. Madame Vaux. Et oui, il avait une hôtesse qui s'appelait Madame Vaux.
Oui.
Et bien, il n'a pas violé. C'est pas moi qui le dis, c'est Éric de Montgolfier qui sort de quoi il parle.
Violer une pute à son âge, il aurait fallu une double dose de cocaïne.
Mais qu'est-ce que tu es en train de dire, toi,
violer une dame, pardon.
Ah oui, enfin, mais vous êtes fous.
Donc, il n'a pas violé, elle a fait ballon, a constaté Montgolfier.
Oui, voilà, c'est pas terrible, ça.
D'accord, mais ça fait.
2 mois après la crise des banlieues, Jean-Louis Borloo et Azouz Begaz ont. Ah bon, présenter un projet de loi pour l'égalité des chances censé corriger les insuffisances...
C'est pas l'égalité des sexes, j'ai eu peur.
Censé corriger les insuffisances du modèle d'intégration française.
Fermez les guillemets. C'est pas Serge de Bekech qui débloque. Hein,
Monsieur Azouz Begaz, il était sur France Inter au journal de 13h. C'est...
Azouz Begaz.
Il faudrait bien apprendre un peu à parler français quand même.
Begag. Respectez.
Begag.
Bon gag.
À ce propos d'ailleurs, c'est mon excellent camarade... Roger Mine, écrit une chose, il a trouvé la solution, lui, à propos de, vous savez, des gens qui sont pas contents parce que on leur fait manger du cochon. Enfin, on leur propose du cochon, ils n'en mangent pas. Alors il dit, voilà, il dit qu'il a trouvé la solution, mais c'est dès que je l'aurai retrouvé, je vais vous la lire. C'est très drôle son truc. Voilà, une soupe populaire avec du porc servie au SDF de Nice par une association d'extrême droite. Ah bon, comment le savent-ils?
Encore?
Oui. A provoqué un profond émoi dans le milieu caritatif. Cette soupe est sikh discriminatoire.
Et alors?
Contre les musulmans. Et les juifs également, d'ailleurs. Mais alors, il faudrait ajouter, pardon, Roger de vous couper, mais il faudrait ajouter que si on sert de la soupe au bœuf, c'est discriminatoire pour les hindouistes. Si on sert de la soupe avec des œufs, c'est discriminatoire pour les animistes, parce que dans certaines traditions animistes, les femmes n'ont pas le droit de manger d'œufs.
Normal.
Pourquoi non, oui,
moi, je fais une suggestion. Il faudrait faire comme à l'armée. On sert du rata et demain, ça sera de là.
Oui, ça voilà. Sera. Mais où ça y ressemble.
Et la soupe voilà. À la grimace, Serge, c'est discriminatoire.
Oui. Oui. Et alors, donc, Roger Mindy, donc ceux qui ne sont pas contents, ils ont deux solutions. Rentrer chez eux ou refuser de manger ces saletés de plat franchouillard. Deux solutions seulement, deux bonnes, dit-il. Il est intelligent, il n'a que des bonnes solutions à proposer. Oui, tiens, vous savez qu'on m'a fait le reproche d'avoir été un peu vif l'autre jour dans des propos humoristiques à propos de du Karcher. Et je voudrais, pour vous montrer toute la différence qu'il y a entre des propos humoristiques et dès qu'ils ne sont pas. Vous citez des propos toujours pris dans le cri de la chouette de l'ami Roger Mine. La fameuse ville de Las Vegas, célèbre pour ses casinos, sa tour Eiffel, ses pieds. Sa tour Eiffel.
Oui.
Ils l'ont transporté là-bas.
Non, une copie.
Ah, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il manquait quelque chose dans le paysage parisien. Alors, cette tour Eiffel, ses pyramides, ses mariages et divorces en 10 minutes, et maintenant couverte de tags. Le nettoyage coûte 10 millions de dollars. Parole du maire de Las Vegas, Oscar Goodman, ce qui veut dire le bonhomme, ou l'homme bon. Hein. Il faut arrêter les artistes du graffiti et, devant les caméras de télévision, leur couper le pouce. Je rappelle que M. Oscar Goodman est forcément démocrate. Il est peut-être républicain, mais même
mais c'est la
aux États-Unis, même les républicains sont démocrates.
C'est la charia.
Voilà. Et alors, il écrit également que le. À propos du dernier Téléthon animé et présidé par l'inénarrable Yannick Noah, joueur de tennis devenu chanteur. Alors là, je vous mets une poignée de guillemets parce que c'est ce qu'il faut. Le numéro de téléphone pour joindre le Téléthon était 6060606. Ouais. Alors il dit que Yannick Noah, le chanteur le plus populaire des Français, comme on s'obstine à vous le matraquer, ne doit pas trop souffrir des banlieues, son domicile est en Suisse.
C'est faux, je suis, enfin, son domicile, il est à Feucherolles où j'habite.
Mais c'est pas en Suisse, Feucherolles?
Il a peut-être un deuxième domicile en Suisse, mais en tout cas, il est à Feucherolles.
Non, officiellement, il est domicilié en Suisse.
Non, mais il doit le savoir, Mine, parce qu'il est Suisse, lui.
Ah, c'est là qu'il va se casser.
Non, mais peut-être au niveau fiscal.
Noah, il a dit, si Sarkozy passe, je me casse. À Paris Match, qui s'est empressé de censurer cette déclaration.
Social, quand même, que
et
non.
Moi, comme un idiot la dernière fois, j'ai dit, ah, il va se casser en Afrique. Pas mais c'est coup. En Suisse qu'il va
non,
se casser,
mais il
j'ai rien compris.
Jusqu'à maintenant, il habitait à New York. Hein. Je suis désolé de vous contrarier tous. Il a peut-être une adresse fiscale, etc. Mais enfin, en tout cas, pour le joindre, il fallait aller à New York.
Non, moi, je le vois pratiquement tous les matins quand je pars au bureau. Alors, je le croise chez mon marchand de journaux.
Oh là, c'est il achète ses journaux lui-même. Il tombe bien bas.
Est-ce qu'il porte un filet?
Il porte pas un filet, ses courses. Il accompagne des fois ses filles qui sont à cheval. Voilà.
Bon, tout le monde a appris plusieurs jours de suite que sur la route, deux jeunes accidentés sur cinq avaient fumé du cannabis. C'est toujours Roger Mine qui parle. C'est-à-dire que trois jeunes tués sur cinq n'en avaient pas fumé. La mortalité des non-fumeurs de cannabis est donc 20% supérieure. Ça fait penser à la fichette qu'il y a chez Klaus, chez l'Alzaco. 20% des accidents de la route sont provoqués par l'ivrognerie. Quand est-ce qu'on va se décider à faire sortir les 80% d'abstinents qui conduisent comme des cochons?
Ah Serge, pendant, comme on vient de faire une embardée entre le Cameroun et la Suisse, j'ai failli oublier, ou je me rappelle à temps, de remercier également notre ami Dieudonné. Il n'y a pas qu'Elis et Moon qui nous fait de la pub gratuite, il y a Dieudonné qui nous a mis sur son site avec extrait sonore. De l'émission précédente.
Ah, c'est bien.
Alors, comme on n'en est pas toujours parfaitement aimable avec lui, je trouve que il témoigne d'un sens du pardon des offenses.
Mais il dit quoi? Il dit qu'on est d'abominables canailles.
Bon, il nous présente pas sous un jour très favorable, disons, mais enfin,
non, mais
que m'importe qu'on parle de moi en bien ou en mal.
Ça me rassure parce qu'en ce moment, c'est pas confortable d'être copain avec Dieudonné.
Quand je vais aller au théâtre de la main d'or, maintenant je vais m'annoncer, je paierai pas ma place comme ça.
C'est probable.
Oui, ils sont transportés directement à l'hôpital le plus proche. Après l'agression de l'enseignante des temples, l'enquête administrative du lycée Louis Blériot ne relève aucune faute.
De la part de l'enseignante.
Non, mais ils sont embêtés cet après-midi. Là,
je répète.
Ouais, parce qu'elle a fait plusieurs déclarations ce matin.
Ouais.
Et
elle a raconté.
La direction est très embêtée.
Serge, je cite la revue de presse de Google. Hein. Vous ne pensez pas qu'ils sont en train de faire des embardés tout
non,
ça.
Non,
ils citent mot à mot la revue de presse de Google.
Ben oui, c'est plus simple quand même.
Fermez ta Google.
Il est grossier.
Le fils de Charles Pasqua, jugé à Paris. Mais alors, à la surprise générale, il ne s'est pas présenté au procès.
Non.
Incroyable.
Ça se fait. C'est retenu ailleurs.
Parce qu'il est innocent. Alors, il y a quand même une nouvelle, comme je sais, du genre de celle que j'aime, c'est... Le titre, c'est « La greffée sort à visage découvert oui. ». Je sais pas, le métier de journaliste, on peut dire, c'est, fait pas beaucoup de progrès ces temps-ci. Ouais. Ça me rappelle la fameuse nouvelle qui avait été donnée. Je sais plus quel pilote automobile avait, malheureusement pour lui, perdu la vie dans un accident où il avait été carbonisé. Et alors les journaux disaient, grièvement brûlé dans l'accident, le pilote s'est éteint à l'hôpital. Villepin rêve d'une année d'humour et de tendresse.
C'est un autre titre. Qui rêve de ça?
Villepin.
Hop. Mais il n'a qu'à regarder les guignols avec qui il travaille.
Mais il devrait faire la confidence à...
Oui.
Hein? Voilà. Bon. Eh bien, voilà. Philippe Doustoblasi rencontre son homologue autrichienne. Je vous le dis parce que c'est... Rien que ça, ça me fait rire. Il paraît que Chirac lui a présenté ses félicitations à plein conseil des ministres l'autre jour pour le brio et l'intelligence de son d'une action qu'il avait faite.
Bah oui, qu'il n'a pas perdu son humour, Chirac.
C'est tellement rare.
Ouais.
Hein, on imagine très bien Chirac. Dites donc, alors là, pour une fois, vous n'avez pas fait une connerie. Hein. Cécilia rentre à la maison. Cécilia rentre, ce soir, c'est ravioli. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, c'est tout. Ah non, les radars. Voilà, l'histoire des radars, j'aime beaucoup.
Ils ont repéré Cécilia.
Près de 205 millions d'euros ont été récoltés l'année passée par l'État grâce aux radars automatiques, soit presque le double qu'en 2004. Alors moi, je voudrais qu'on m'explique un truc. C'est qu'on nous dit, l'installation des radars a fait baisser les accidents de la route de 50%. Bon. Et puis on nous dit, il y a deux fois plus d'infractions que l'année dernière.
Oui, la preuve.
Bon, alors, c'est-à-dire qu'en réalité, les gens conduisent quatre fois mieux. S'il y a deux fois plus d'infractions et deux fois moins d'accidents.
Je comprends rien.
Moi non plus, voilà, c'est ça. Je me demande si de temps en temps les journaux ne disent pas n'importe quoi. Non, je dis n'importe quoi d'ailleurs.
Et Barbet d'Orvilly disait, les journaux, les chemins de fer du mensonge.
Ah, très joli, Barbet, très très joli. Voilà, et Sciences Po, sauce sociale.
Ah oui?
Oui, alors parce que Sciences Po, ils vont recevoir des analphabètes bientôt. Parce que non, les analphabètes, on dit que oh, c'est de la discrimination.
Et c'est pour ça que notre ami Ratier, dans Faisait Document, signale qu'ils ont déjà sérieusement écrémé la bibliothèque. Il s'imaginait, Ratier, toujours obsédé, que c'était de la discrimination politique. Mais pas du tout, c'est pour ne pas offenser les analphabètes. Mmh. Donc c'est des livres à colorier.
Il y a des albums à colorier.
Ah, voilà. Vous voyez, Ratier, qu'il ne faut pas avoir mauvais esprit.
Bien, moi je crois que c'est tout. Hein, dans l'actualité, c'est tout.
C'est déjà pas mal, hein. C'est chaud ce soir.
Oui. Ah si, il y a quand même une petite information.
Petite ressuscité, tonton.
Dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 décembre, c'est vieux, mais c'est toujours intéressant. Un drapeau français suspendu au mât devant la mairie de la commune de Limeil-Brévannes, Val-de-Marne 94, a été dérobé et remplacé par un drapeau algérien. Le drapeau algérien a été mis sous scellé pour expertise papillaire.
C'est pour déterminer si c'est un torchon.
Un papillaire. Qu'est-ce que c'est, papillaire? Une goutte?
Non, pas du tout. C'est la texture du torchon. Mais Monsieur Rondeau, le pied noir, si présent, m'approuve, Serge, homme de peu de foi, n'est-ce pas? C'est une expertise qui va déterminer si c'est un torchon.
Non, ça permettra de repérer l'ADN.
Voilà.
Si les gens qui ont voilà.
Ça aidera pas, puisque d'après ce que j'ai entendu, la différence ADN entre un chimpanzé et un être humain, c'est quoi? C'est un gène, un demi-gène.
Non, je crois que c'est une question de branche.
Oui, bien sûr, dans quelle branche?
Je
signale aux auditeurs qui continuent de nous écouter et qui ont bien du mérite.
Nous, on s'amuse bien, hein, c'est déjà ça.
Oui, c'est déjà ça, oui. La parution d'un petit recueil de dessins de mon excellent camarade Conk, qui est formidable. Ça s'appelle Pour la vie. Et puis, je le ferai voir au docteur Dor. Je ne lui donnerai pas parce qu'il est dédicacé. Et puis, après tout, il n'y a pas de raison. Ça s'appelle Pour la vie. Et Vous avez sur la couverture, vous avez un fœtus de 10 semaines dessiné par Comte, c'est marrant, et puis un fœtus de 12 semaines. Alors au-dessus du fœtus de 10 semaines, il y a marqué viande, et celui de 12 semaines, il y a marqué être humain. Voilà. Et alors, parmi les dessins, vous avez un savant qui est au milieu d'un laboratoire et qui est, où tout le monde examine des fœtus et il dit « On a bien regardé, le fœtus n'a pas d'âme. » Il y a un couloir d'hôpital avec deux flèches. À gauche, traitement de la puissance. À droite, IVG. Aussi des techniciens en blouse blanche qui sont au milieu d'un amas d'embryons congelés dans leur congélateur. Ils regardent d'un air très emmerdé. Ils disent qu'on pourra en faire de la farine. Voilà.
On peut penser que Conque sera à Paris le 22 janvier prochain à 14h30, place de la République. Ne croyez-vous pas, Serge, avec le collectif 30 ans, ça suffit.
J'espère qu'il sera.
Est-ce que j'ai bien articulé 22 janvier, dimanche, à 14h30, place de la République?
Voilà. Il y a aussi deux prisonniers qui parlent à travers les grilles de leur cellule. Et il y en a un qui dit « J'ai tué un enfant » et l'autre dit « Et moi, j'en ai sauvé un ». Voilà. Et puis, il y a aussi deux messieurs qui se tiennent tendrement enlacés. Il y a deux autres messieurs qui sont bras dessus, qui passent. Il y en a un qui dit, ils s'affichent et ils ne sont même pas mariés. Et puis, il y a deux messieurs qui se présentent devant le maire, dont un avec des talons hauts. Et l'autre dit, oui, c'est mon frère. Et alors?
Oui, mais c'est la prochaine revendication du Marais, ça, le droit à l'avortement. Là, ça,
vous faites de la déclinologie, là, Serge, je rêve.
Non, c'est bien, il est bien conquis. Et puis il y a des jeunes qui regardent passer une manifestation de retraités en se marrant. Il y en a un qui dit « Ils comptent sur nous pour payer leur retraite ». Et l'autre dit « Ils vont être surpris ». Mon fils, tu payes mes dettes, tu payes ma retraite et avec le reste de ton RMI, tu fais ce que tu veux. Voilà, donc lisez ce formidable petit recueil paru comme supplément au courrier de la liberté numéro 153 du 15 décembre 2005. Et le courrier de la liberté, il doit y avoir une adresse. Non, il n'y a pas d'adresse, parce que Conque, il est comme moi, c'est un type sérieux.
Vous écoutez Radio Courtoisie, voilà. Et vous y envoyez de nombreux messages qui viennent d'atterrir sur notre
table. Non, il n'y a rien à dire. Que des
injures. Que des injures.
Non,
mais en fait, c'est un peu général.
L'institut, elle ne veut pas lire les messages. Alors, après, on se fait en guirlandais.
Mais je ne veux pas parler de M. Ratti, il n'a pas encore parlé.
Non, mais on va lui donner la parole maintenant. Voilà,
je ne veux pas parler de M. Rondeau, étant donné qu'il n'a pas encore parlé. Voilà.
Donc, c'est des messages prévisionnels.
C'est prévisionnel, en fait.
Ah oui, c'est pour dicter leur conduite.
Bien, alors on va donner la parole à Emmanuel Ratier, d'ailleurs, parce qu'après tout, c'est comme ça, voilà.
Maintenant qu'il est là.
Et Emmanuel, on a dit tout à l'heure qu'il y avait combien, vous m'avez dit, 450 000 signes ou 500 000.
Non, beaucoup plus.
Bon. Il veut pas donner le nombre de signes. Il est devenu tellement méfiant.
Il ne sait pas compter.
Mais non, mais je me souviens.
Non, mais c'est plus. C'est un truc énorme. Il y a tout dedans. Rien que sur moi, il y a une page entière.
Oui, j'ai
pratiquement
vu.
Un roman.
Oui.
Enfin, c'est pas un roman, Serge.
Non, c'est intéressant. D'ailleurs, j'ai trouvé.
Et quel roman que ma vie, disait oui. Napoléon à Saint-Denis.
Non, vous vous êtes remémoré. On peut le lire en lisant des choses que vous aviez oubliées.
Il y a des mensonges sur moi que j'avais oubliées. Non, c'est vrai. Il y a des choses que j'avais complètement. Et vous saviez des choses que j'avais oubliées. Moi, voilà. Du coup, ça m'a permis de corriger ma...
Biographie.
Ma future biographie.
Bon, alors, la première question...
Et j'ai même mis votre dernier ouvrage dedans.
Ah oui, en plus,
ce qui prouve que c'est très à jour.
Le dictionnaire de la colère dedans.
C'est
incroyable.
Enfin, c'est un vrai recueil de viande froide, ton truc. Là.
Non. Ah non, il y a plein de gens vivants.
Ah bon?
Il y a moi, d'abord.
Mais ça va être pratique pendant quelques temps.
Il est vexé parce qu'il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans, le marquis.
Non. Tant mieux.
Mais il vaut peut-être mieux pour lui, en fait.
Voilà, c'était oui.
Donc, la technique. Comment vous faites ça?
C'est encyclopédie politique.
N'importe qui peut le faire.
Oui, c'est ça, d'accord.
Oui, c'est ça, on connaît. Puisque je le fais, n'importe qui peut le faire.
Oui, non, mais en fait, c'est un travail assez simple, en fait. Ce qui est vrai, c'est que c'est simple, et c'est à la fois de l'esclavage. Voilà. Donc il faut tout lire.
Parle sans haine et sans crainte, mon petit garçon. Là, on le s'est entendu, là.
Non, mais pas du tout. Non, il faut lire le plus grand nombre possible de journaux, puisqu'on travaille dans l'immédiateté, on travaille dans l'actualité. Il faut lire les biographies qui sortent. sur les hommes politiques, même si en général il n'y a pas grand chose, ou toutes les un peu les scandales, etc. Mais ce livre, c'est pas un ouvrage qui se veut une description des scandales, pas du tout. Il faut avoir pas mal de recueils, les élections législatives, les pourcentages d'élections, enfin ce genre de choses. Et puis surtout, bon, en fait, c'est un travail de très longue haleine. Moi, je l'ai commencé il y a 30 ans. Et donc, c'est plus intéressant, si vous voulez, quand on fait le portrait de quelqu'un, en général. Après, ça devient très convenu, mais quand il est peu connu au début, enfin un petit peu connu quand même, on apprend beaucoup plus de choses à ce moment-là. Et après, il faut confronter les documents, les entretiens, les biographies qui ont été faites. Et là, moi, c'est essentiellement des sources papier. Essentiellement des sources papier, parce qu'en France, bon, il n'y a pratiquement rien d'autre. Bon, j'imprime pas mal via Internet, mais en fait, ce sont des plus ou moins des journaux qui paraissent par Internet, ce genre de choses. Bon, ou par exemple, on prend une déclaration à la radio de monsieur Untel, etc., etc. Bon, moi, là, par exemple, dans le prochain numéro de Mallette, bon, qui sort là cette semaine, je fais le portrait d'Arnaud Klarsfeld.
Ouais.
Bon, que j'avais jamais fait, parce que j'ai pas un problème, parce que le dictionnaire où il y a, je sais pas, 4500 biographies, il y aurait pu y en avoir 4500 autres, hein. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut trouver quand même, bon, des personnalités qui ont quand même un certain relief. Et, Arnaud Klarsfeld, c'était intéressant, bon, sans même parler de ses parents, puisque je les avais déjà traités avant. Je trouve qu'il a un itinéraire sur lequel il y a beaucoup, beaucoup à dire. Bon. Et si vous voulez, par exemple, un exemple, parce que là, bon, je sais pas, j'avais 300 ou 400 coupures de journaux sur lui, des articles, etc. Bon, il y a un fameux épisode dont vous devez vous souvenir, c'est en 1987. Ouais, il monte sur l'estrade où parlait Jean-Marie Le Pen au bleu, blanc, rouge, avec un t-shirt marqué Le Pen nazi. Et moi, je me souviens, j'étais là. Donc, il est attrapé par les membres du DPS et expulsé. Bon, il s'est débattu, donc il s'est pris quelques coups, etc. Donc il va voir un médecin, et les articles de l'Époque en témoignent, il a 3 jours d'arrêt de travail. Bon. Et aujourd'hui, il donne des entretiens en disant qu'il a été tabassé pratiquement à mort et qu'il a perdu plusieurs dixièmes aux yeux. Et qu'il est quasiment aveugle à cause de Jean-Marie Le Pen. Bon. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir les déclarations aujourd'hui. Oui. À l'époque, bon, par exemple, il dit j'ai essayé d'intervenir en faveur des otages français en Irak. Bon, alors je reprends les coupures de l'époque, etc. Bon, il raconte comment il a essayé, mais alors là, on se croirait encore dans des histoires de ses parents. Il a essayé de passer la frontière jordano-irakienne sous un camion. C'est une espèce d'histoire de résistance, vous voyez. Bon, et alors, ce personnage est entièrement.
C'est Indiana Jones.
Bon, par exemple, aujourd'hui, tout à l'heure, il dit mon grand acte de gloire, le procès Papon, etc. Quand on prend les articles de l'époque, on apprend qu'il a été poursuivi par l'ordre des avocats, qu'il a failli empêcher le procès d'aboutir, et toutes sortes de choses comme ça. Et à l'époque, tous les gens disent, je mets des déclarations disant que ses interventions étaient particulièrement lamentables. Bon, mais par la construction médiatique, il en fait quelque chose, il se forge une aura.
Mais finalement, il est pétainiste à sa manière, quoi. Il a compris que les Français avaient la mort.
Et c'est absolument incroyable. Bon, par exemple, il obtient la nationalité israélienne. Bon, donc j'en parle parce que bon. Et il effectue son service, un service volontaire de 1 an et 8 mois, je crois, dans le Sahel. Mais il a 37 ans, personne n'en veut. L'armée israélienne sait absolument pas quoi en faire. Bon, donc il le colle comme employé au service d'information. Il finira par se reprendre avec un fusil mitrailleur Uzi dans les gardes frontières. Mais quand on prend les trucs, les généraux israéliens, ils disent, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ce trublion? Il nous intéresse pas. Or, en France, il y a une espèce d'aura qu'a reconnu Nicolas Sarkozy.
Bon. En le nommant,
en le nommant
d'une mission de réflexion sur la loi.
La mémoire, avec un grand M, l'histoire, avec un grand M, etc. Or, les positions, on les connaît, puisqu'il les a déjà tenues avant. Il est pour la loi Guesso, il est pour la loi pour la reconnaissance de l'esclavage. Il veut même faire une loi sur le supposé génocide au Rwanda. Bon. Et c'est là où on voit que très habilement ils ont bien joué, puisque son père, Serge Klarsfeld, donc on voit bien que le fils est à la fois jugé parti son père était à l'origine d'une contre-pétition contre les 17 historiens et les 28 intellectuels qui ont appelé à l'abrogation de cette loi Cervera.
Didier Denax l'a signé, voilà. ils sont deux quand
voilà.
même.
Non, mais ils sont, j'en parle, ils sont une petite vingtaine. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce sont tous des seconds couteaux, mais que dans cette opération-là, ils ont associé toutes sortes d'autres personnes qui ne sont pas apparues. Et en fait, c'est, ils ont associé, dans la pétition, ils ont associé un certain nombre de responsables d'associations rwandaises et de nombreux Arméniens. Comme ça, ça n'apparaît pas comme émanant de la communauté.
Bien sûr.
C'est, ils essayent de mouiller un peu tout le monde, mais dans ce cas-là, ils sont obligés de toutes les garder. Parce que l'habileté, c'est pas du tout, comme on l'a dit dans la presse, de n'annuler que la loi Guesso. Klarsfeld, aussi bien le père que le fils, dit il en faut de nouvelles. Parce que les historiens cherchent à confisquer l'histoire. C'est ce qu'a dit Klarsfeld et c'est ce qu'a dit Sarkozy. J'ai été choqué par le fait, quand il a nommé Klarsfeld, il a dit j'ai été nommé par le fait que les historiens cherchent à s'emparer de l'histoire.
Ils sont gonflés quand même.
Voilà.
On publie leur pétition d'ailleurs dans le Libre Journal. On y fait référence à la une, même 19 historiens exigent l'abrogation de la loi Guesso. On l'a publié texto sans commentaire avec leur signature. C'est les historiens, pour les auditeurs qui n'en auraient pas connaissance, c'est
de premier plan.
Voilà, Elisabeth Badinter, Michel Vinoc, qui est d'ailleurs un spécialiste de l'antifascisme au seuil, Pierre Vidal-Naquet, il y en a une vingtaine comme ça qui disent oui, la liberté pour l'histoire et l'histoire aux historiens et abrogation de toutes ces lois.
Bon, donc pour reprendre, c'est en fait, il faut restructurer les faits, il faut les mettre en forme. Retenir les faits intéressants quand on fait une biographie, les petites phrases qui comptent, pas les petites phrases que sortent les hommes politiques en permanence et qui servent à rien. Et puis les points de clivage, les moments où on est obligé de choisir. Par exemple, c'est quand ça divise les partis de la Constitution européenne, il y avait des membres de l'UMP, du PS qui étaient pour et d'autres qui étaient contre. Bon, donc ça c'est intéressant à noter. C'est des choses comme ça qui permettent de d'essayer de tracer un portrait à la fois historique et psychologique des gens.
Mais qu'est-ce qui détermine votre choix qu'est-ce qui vous fait dire bon, celui-là, je vais lui consacrer une notice, mais celui-là, non, parce que ça veut dire que vous pensez que dans 2-3 ans ou 6 mois, il n'existera plus médiatiquement.
Il y a des gens, bon, on sait, parce qu'il n'y a pas que des hommes politiques, il y a des hommes d'église, il y a des j'ai fait pas mal d'intellectuels, des journalistes, des syndicalistes. Bon, quand les gens sont en fin de course, on n'est pas obligé de les faire. Bon, mais j'ai fait quelques morts, parce que c'est des gens qui n'avaient jamais été traités, notamment par Cosson, et qui me paraissaient intéressants. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai des fichiers, je les prends. Bon, j'essaye de prendre les personnalités en général les plus intéressantes. Bon, mais c'est sûr qu'il y a des trous. Hein. Bon, ils seront dans le troisième. Alors, ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est qu'il y a des gens qui me disent mais vous n'avez pas traité telle personne. En fait, ils n'ont pas le tome 1. Hein, parce que je les ai traités dans le tome 1. Par exemple, j'ai continué la biographie de Patrick Gobert. Bon, il y a quelqu'un qui est furieux, il m'écrit en me disant je vous rappelle que M. Gobert s'appelle Goldenberg, il a changé de nom, vous auriez pu le mettre. Bon, alors que j'ai écrit un livre sur Patrick Gobert. Donc, je suis bien passé. Mais les gens, on m'a reproché aussi de ne pas avoir fait. Bon, mais il n'y a pas Charles Millon, il n'y a pas Jean Thibéry.
Même la journée, je vous ai reproché de ne pas avoir fait la notice de Madiran.
Voilà. Non, oui. Alors ça, c'est absolument fou. Il y a une notice consacrée à Jean Madiran.
Comme quoi, on peut
à l'intérieur
faire
à l'intérieur de ce volume.
Ça devait être une page collée quand j'ai regardé.
Mais ce qui est vrai, c'est que la principale biographie que je n'ai pas faite, c'est vrai, c'est Philippe de Villiers, parce qu'en fait, je lui consacrais un livre.
Voilà. Alors, tiens, puisque vous en parlez, on peut peut-être dire un mot de Philippe de Villiers. Moi, je ne sais pas à quoi en penser.
Je ne sais pas quoi encore en penser.
Ah bah voilà,
je ne me suis pas plongé dans les dossiers.
On est bien. Que quelqu'un sait quoi penser de Philippe de Villiers autour de cette table?
Le grand problème est de savoir si.
Enfin, moi, je pense quelque chose, parce que pour faire quelques dîners dans des villes un peu bourgeoises, j'entends des gens qui vont voter M. de Villiers. Donc, je leur dis qu'ils seront trahis une fois de plus, c'est tout.
Voilà. C'est ça la question. Est-ce que oui ou non?
Moi, je ne crois en aucun cas à sa transformation. Il est dans le système. Il a besoin pour garder la Vendée et du système. Et donc, il a une mission actuellement. C'est tout, point.
Voilà. Ça, c'est votre opinion.
C'est mon opinion. Et je la partage.
Marquis, vous avez une opinion?
Non.
Entre marquis, non.
Comme moi, j'essayais de trouver un truc entre le puits et le fou, mais j'y arrive pas. Donc,
je rappelle que je suis vendéen. Hein. D'origine.
Ah oui.
C'est noir vendéen.
Oui, parce que
c'est un père vendéen.
On aurait pu s'en douter. Hein. Mais non, moi j'ai pas d'opinion. Je sais pas. Je trouve sympathique.
Je trouve qu'il a l'air bête.
Bah, ouais, mais alors,
non, mais vous voyez, c'est aussi intéressant parce que ça provoque des réactions très différentes.
Ouais.
Et, mais ça va être un des pivots de l'année politique qui s'ouvre. Et c'est intéressant parce que, en dehors d'une biographie qui est parue il y a 15 ans sur lui, à peu près, il n'y a rien actuellement sur Philippe de Villiers. Donc je me suis dit, bon, bah, autant s'intéresser de près à ce personnage, bon, qui va être dans la cour présidentielle.
Oh, pardon, oui, c'est vrai, excusez-moi, le vicomte.
Ouais, j'ai pas d'opinion arrêtée non plus sur lui, mais je peux vous dire, mon cher Marquis, qu'il est tout sauf bête. J'ai entendu ce midi.
Non, tu dis qu'il avait l'air, j'ai pas dit qu'il était.
Bon, je ne veux pas dire qu'il a la chanson, comme.
J'ai entendu ce midi sur France Inter réfuter la conférence de presse d'une heure de Villepin en trois phrases ce matin. On peut dire qu'il a vraiment mouché. Alors, s'il joue un rôle, tant pis. S'il joue pas de rôle, tant mieux. Il l'a mouché bel et bien, quoi qu'il en soit.
Ça, il faut quand même...
Vous,
il faut,
Victoria,
avec un mouchoir de Cholet, bien sûr.
Ce matin, il était l'invité d'Apathy sur... comment c'est, Luxembourg, qui lui a dit, mais enfin, monsieur de Villiers, c'est pas possible. J'ai l'impression d'avoir Jean-Marie Le Pen dans le studio.
Pourtant, il lui ressemble pas.
Non.
C'était à l'entendre.
Alors, moi, je me pose la question, en quoi c'est gênant d'avoir pour un journaliste Le Pen dans son studio?
Oui, c'est ce qu'il aurait dû, répondre à monsieur Apathy.
Dans ce genre de déclaration, justement, il y a certainement eu, je pense, une déclaration de Le Pen, comme pas mal de choses. Alors, les déclarations de monsieur de Villiers passent. Bon, il faut peut-être se poser la question pourquoi.
Le Pen, c'est une insulte. Quand on vous dit que vous êtes Le Pen, c'est une insulte. Donc,
oui, d'ailleurs, dans le prochain tome, parce que je fais aussi d'autres choses, donc j'avais publié deux tomes.
Par des stylos.
Deux tomes du dictionnaire des changements de nom. Donc je vais faire le troisième. Il y a un certain nombre de gens qui s'appelaient Le Pen qui ont demandé à changer de nom les 15 dernières années. Si. Il y avait aussi des gens qui s'appelaient Maigret, d'ailleurs, qui ont demandé à changer de nom.
Il y a un footballeur Le Pen, je crois, à Sochaux ou à Strasbourg, qui lui le revendique. Hein. Voilà. Pas aussi fort que Di Canio à Rome.
Mais c'est pas tout à fait la même chose.
Bon, enfin, toujours est-il qu'il y a quand même beaucoup à lire. Même s'il n'y a pas tout le monde.
Alors, quel est le premier nom?
Je crois que c'est Aaron.
Et le dernier, c'est Silberstein, probablement.
C'est à peu près ça, ou Silberberg.
Ah, faudrait vérifier.
Mais c'est un pur hasard, hein, parce que vous me
dites. Ah oui, non.
Une espèce de question.
C'est pas une encyclopédie judéophobe, rassurant les auditeurs,
c'est une encyclopédie. Il n'y a pas beaucoup de noms qui commencent par deux A. Il n'y a pas beaucoup de noms qui finissent par ZY et qui ne soient pas des noms juifs, c'est tout. C'est,
oh là là, c'est une obsession.
C'est pas du tout une obsession. C'est une encyclopédie.
Non, mais c'est une encyclopédie de la vie politique au sens large. Hein.
Parfaitement clair.
Donc, on en a déjà parlé ensemble. Bon, je pense que ça va devenir à nouveau une source de référence parce que. Les petits détails qu'on aime bien, quand un jour, je sais pas, Jacques Chirac ou telle personne a dit telle phrase, bon, là, on a le journal La Référence.
Voilà. Et puis, le Marquis se marre parce qu'il faut quand même que j'explique ce qui se passe aux auditeurs, parce que sinon ils vont pas comprendre pourquoi on ricane. Parce que pendant qu'il nous explique tout ça avec beaucoup de tenue, Emmanuel est en train de se battre contre son stylo qui a décidé de s'enfuir.
C'est son Le Pen qui.
Oui, c'est toi. Alors il a les doigts couverts d'encre noire, mais il est absolument stoïque, il continue à parler. Pardon de révéler vos petits secrets, mais
non.
Qu'est-ce que c'est comme marque, s'il vous plaît, votre style?
On en achète surtout pas.
Je sais pas, c'est un vieux truc. Bon.
Vous êtes bien sur Radio Courtoisie.
Et un auditeur demande à Monsieur Ratier, est-il exact que votre encyclopédie tome 1 va être rééditée?
Oui, je vais la rééditer cette année. Parce qu'en fait, il y en avait pratiquement plus, et puis il s'est épuisé depuis l'année dernière. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens. On croit toujours, on se prend trop au sérieux, on croit toujours que les gens vous connaissent. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont découvert cette encyclopédie, qui n'ont pas la première et qui aimeraient l'avoir. Bon, donc je vais rééditer la première, parce que maintenant, elle est épuisée, quoi.
C'est écrit plus gros.
Ah oui, alors, bon, ben, c'est vrai, parce que j'ai mis 13 ans à écrire la seconde par rapport à la parution de la première. Et donc, bon, j'ai beaucoup, beaucoup trop travaillé. J'aurais dû faire un bouquin écrit en caractère plus gros, parce qu'il fait déjà 1000 pages, mais je pouvais pas tellement l'augmenter, parce qu'après, ça devient difficile à ouvrir. Et donc, ben, j'ai choisi de réduire le caractère et de mettre moins d'images. Alors, on m'a aussi, par exemple, bon, un pétain un peu critique, parce qu'on trouvait que ça manquait d'illustration. Bon, je sais pas, il y en a 70 ou une centaine.
On n'achète pas une encyclopédie politique pour voir des illustrations.
Et vous savez, les gens, souvent, quand ils achètent des journaux, ils regardent d'abord les photos, les légendes.
Oui, dans la première,
et puis éventuellement l'éditorial. Hein.
Oui, c'est ça, c'est, la première édition, ce qui était intéressant, surtout en dehors des dessins de Philippe Colombani, qui était excellent, mais ce qui était intéressant au point de vue illustration, c'est qu'il y avait des documents.
Oui, oui.
Je parle des premières pages de journaux ou des éditos.
Non, mais il y en a là aussi. Il y en a.
Des reproductions d'éditos, et c'était dans la grande tradition de Coston. Coston faisait ça aussi.
Oui, oui.
Et en fait, là, vous situez complètement dans la filiation de Coston sur le plan du travail en encyclopédie politique. Et c'était absolument indispensable parce que le Coston, maintenant, là, on voit qu'on a changé d'univers politique,
oui.
Puisque pratiquement le Coston ne concerne plus de personnes en activité. Ou
non, pratiquement pas. Ou alors, c'était des notices très très courtes, parce qu'en fait, les gens n'avaient pas
débutants,
encore
voilà. Ce qui est amusant dans le Coston, ouais. C'est de voir une photo sur laquelle vous avez bras dessous, la génération.
Oui, la génération des jeunes républicains, où il y avait Patrick Poivre d'Arvor, voilà. Toute une série
Poivre
de personnes
d'Arvor,
comme ça.
Madelin ou Juppé, ou je ne sais qui encore, toute une bande. Alors, c'est amusant parce qu'ils ont 25 ans. Et on voit que, contrairement à nous, c'est devenu des vieux cons. Tandis que nous, on est restés jeunes.
Ah oui.
Hein?
Mais con. Mais un peu con quand même.
Un peu con quand même, mais jeunes.
N'avouez jamais. Pouvez-vous confirmer ou infirmer la rumeur selon laquelle Jacques Chirac aurait la double nationalité franco-marocaine? Ça, c'est une question à M. Drac.
Les bras m'en tombent.
Non. Le roi de Jordanie a dit que c'était un bon Marocain. Alors, c'est vrai que ça.
Il y a une confusion.
Il y a d'abord eu un Marocain.
Écoutez bien, moi, je vais vous donner la réponse. Mais absolument. Ça a même fait l'objet d'un blanc d'Hergé. Le Pen serait né au Maroc. Alors, l'histoire est la suivante. Elle est absolument authentique. Vous la connaissez, Emmanuel?
Non.
C'est pas ça.
Non.
C'est pas tout. Hein.
Quand Yvan Blot a préparé son livre, Le Pen est-il néo-baroque? Parce que Blot était un obsédé du baroque.
Néo-baroque.
Et il avait fait un livre, Le Pen est-il néo-baroque?
Ouais.
Et il y a un flic qui avait une oreille qui traînait.
Néo-baroque.
Il a entendu parler du livre. Il a entendu, Le Pen est-il néo-baroque? Alors, il a fait un blanc au RG en disant, d'après certains bruits qui courent au Front National, il semblerait que Le Pen soit néo-maroc.
Ouais.
Voilà. Donc, alors voilà. Ça m'énerve. Alors là, je vais vous dire, ça me pompe l'air. Putain, mais vous savez, il y a des petits bâtons avec du coton au bout. Vous mettez ça dans votre oreille, vous tournez, ça nettoie impeccablement.
Non, des fois, ça pousse le cérumen. Hein,
ouais.
Pas mal. Hein.
Je suis agacé par Radio Cartoisie car vous attaquez M. de Villiers, mais ce n'est pas étonnant de la part de gens du FN.
On l'a pas attaqué.
Bon, pour commencer autour de cette table, il n'y a pas un souci, peut-être le marquis. Vous êtes encore militant FN, vous?
Non. Bon. Mais jamais été, franchement.
Il n'y a pas un seul militant du Front National autour de cette table. Moi, je suis un ami de Jean-Marie Le Pen,
oui, voilà.
Point à la ligne. Le marquis aussi.
Il faut avouer qu'on a été invité au vœu à la presse de Jean-Marie le 3 janvier.
Oui,
reçu.
On est obligé d'avoir la carte du parti pour y aller.
Ah bon? Vous avez été invité?
Non, mais je pensais que vous l'étiez.
Non.
Ah bon?
T'es pas obligé d'avoir la carte du
alors,
parti pour
donc
t'y
je
rendre.
Ne suis pas au FN, personne le pire. Bon. Et
puis merde, oui. Bon.
Qui a attaqué Villiers autour de cette table? Voilà, Jean-Pierre. Jean-Pierre, dénoncez-vous immédiatement.
Je dénonce.
C'est bien.
Vous voyez, pas au Front National.
Je suis pas au Front National. Mais les autres, j'ai dit, moi, j'ai pas d'opinion. Le marquis a dit, comme vous, je m'en fous.
En gros, c'est ça.
Et moi, j'ai dit, j'ai pas d'opinion en signalant un fait favorable.
Et moi, j'ai dit que je le trouvais sympathique. Vous, qu'est-ce que vous avez dit?
Qui était beau garçon.
Qui était beau garçon. Et Ratier, il a dit, je prépare un bouquin. Voilà.
Oui.
Alors, je sais pas, vous avez vu qu'on était. Ouais. Qu'on
s'il
attaquait.
S'il y a que des attaques comme ça,
on attaquait, attaquons. Attaquons comme la lune. Voilà.
Oui. Vous êtes bien sur Radio Courtoisie et même très bien, à quelques exceptions près.
On croit
la marque du stylo de M. Ratier doit être un petit peine.
Mais ben, c'est ce que.
C'est un auditeur qui dit ça, hein, c'est pas moi.
Vous êtes fâché avec Villiers, vous n'avez pas vous fâché avec Le Pen maintenant. Pouvez-vous confirmer le fait que le vice-président syrien réfugié à Paris serait un proche de la famille Hariri?
Je m'occupe pas de politique étrangère.
Bon, bah,
il y a des fois.
Moi, je suis plus en Seine-Saint-Denis.
Le canard enchaîné d'aujourd'hui dit que la nomination d'Arnaud Clarsfeld par Sarkozy est un clin d'œil à la communauté. Mais alors à ce moment-là,
vachement subtil.
C'est un clin d'œil à Régine. Voilà, bon,
c'est quand même trois bandes. Hein.
C'est bien ce qu'on disait.
Oui,
voilà. C'est quand même du billard à trois
mais
bandes.
Mais non, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut. Enfin, bon, j'ai vu le canard enchaîné, mais en fait, c'est il y a effectivement une espèce de clin d'œil, mais. Il faut savoir que quand même Arnaud Clarsfeld est totalement marginal à l'intérieur de la communauté.
Ah oui, ça c'est sûr.
Totalement marginal. Par exemple,
en même temps,
Bernard-Henri Lévy a publié un article que je cite, où il le descend en flammes. Il n'y a pas du tout de solidarité comme ça, ça repose pas. Même son père, Serge Klarsfeld, a toujours été très mal considéré dans les instances communautaires, au moins jusqu'aux dernières années. Ce sont pas du tout des gens qui comptent. Ce sont des gens, Serge Klarsfeld, il est aussi chasseur de nazis que l'était Simon Wiesenthal. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont pratiquement jamais rien fait, mis à part gifler.
C'est la dame Klarsfeld qui a fait ça.
Et Arnaud Klarsfeld s'est décidé en uniforme de Waldheim quand il a manifesté à Vienne, quand le président autrichien Kurt Waldheim a rencontré Jean-Paul II. Bon, ce qui lui a permis d'ailleurs d'avoir 10 jours de prison jamais effectués pour, j'ai beaucoup aimé, pour port de déclaration illégale en Autriche. Parce qu'il s'était déguisé en officier allemand. Donc les Autrichiens qui ont beaucoup d'humour l'ont condamné pour, en fait, se déguiser. Parce que les décorations, surtout. Bon. Mais cette affaire s'inscrit, bon, en dehors de ça, en dehors du fait que Sarkozy s'inscrit de plus en plus dans la lignée des néoconservateurs américains. Oui, c'est le candidat des néoconservateurs américains. Bon, Arnaud Klarsfeld a beaucoup de contacts aux États-Unis dans les universités où il fait de la propagande en faveur de Tzahal, etc., etc. Donc il y a tout un côté pro-américain qui joue. Bon, et puis la deuxième chose, c'est qu'en réalité, Nicolas Sarkozy a nommé Arnaud Klarsfeld tout simplement parce que Jacques Chirac a demandé à Jean-Louis Debray, son ennemi intime, qui l'a toujours descendu en flammes, bien qu'ils soient tous les deux membres de l'UMP et qu'il est président de l'Assemblée nationale, Jacques Chirac lui a demandé de conduire une mission sur le rôle du Parlement vis-à-vis de l'histoire et de la mémoire. C'est pratiquement en parallèle. Bon, et c'est pas un secret. Jean-Louis Debray travaille vite, justement, pour bloquer Sarkozy. Et ça allait supposer que Jean-Louis Debray va dire on ferait mieux de tout supprimer. Il s'est exprimé une ou deux fois à la radio là-dessus. Il a l'air d'avoir un propos de bon sens. Bon. Donc, aussitôt, Nicolas Sarkozy, qui a double casquette, il est ministre de l'Intérieur et président de l'UMP. Quand il ne peut pas faire quelque chose comme ministre de l'UMP, comme ministre de l'Intérieur, il nomme quelqu'un en tant que président de l'UMP. Voilà. Et là, il nomme Karzé. Personne n'a noté qu'il a également noté un monsieur laïcité qui est en train de faire un rapport sur la laïcité. Or, on sait déjà que les dés sont pipés puisque on sait que Nicolas Sarkozy veut changer la loi de 1905 dans un sens beaucoup plus favorable au communautarisme. Bon. Mais tout ça, ça s'inscrit dans la guerre présidentielle. Sarkozy, c'est un arriviste, enfin, pas seulement un arriviste,
c'est
un carriériste, et donc il désigne les gens qui peuvent être flattés. Mais c'est pas Klarsfeld qui fera la décision. Mais ça permet de faire contrepoids et surtout d'apparaître dans les médias avec Jean-Louis Debray. C'est exactement la même technique avec son épouse.
Non, mais c'est une présence.
Ça lui permet de revenir.
Klarsfeld, on l'a vu partout ces derniers temps.
Hier, il était. Je le savais depuis quelques jours. Cécilia, pour le moment, était revenue, mais elle est revenue déjà plusieurs fois. Mais hier, il a arpenté la rue du Faubourg Saint-Honoré. Il s'est rendu, je crois, chez Virgin ou quelque chose comme ça. Bon, pour acheter des disques, il est entouré d'une meute de photographes. Bon, donc ça veut dire que les journaux, je sais pas, VSD ou Paris Match pour se racheter, etc., vont évidemment faire la une sur le
rabibochage
du couple, en disant, et puis les Français sont chargés de penser, ah, qu'est-ce qu'il est formidable, il a réussi à récupérer sa femme.
Il a pardonné.
D'occuper les médias en permanence. Bon, avec Klarsfeld, il a joué très fort, effectivement, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont été choqués par ça. Mais ça permet à Nicolas Sarkozy d'être en permanence présent.
Et donc, quand Cécilia va se tirer avec Arnaud Klarsfeld, je te dis pas.
Nicolas Sarkozy mettra avec
pas,
Carla Bruni.
Mais sortir avec l'élu de son cœur, ça va faire du bruit, ça aussi.
Ça, oui,
là, pour le coup, il serait drôlement médiatisé.
Là, hein. Ça va vraiment.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà oublié Anne Fulda, par exemple. Bah Anne Fulda, la journaliste du Figaro, qui vivait avec Nicolas
Sarkozy. Elle dort tranquille, là, maintenant.
Qui avait quitté son mari, etc., et qui s'était mis en couple avec Nicolas Sarkozy. Elle, on n'en parle plus, vous voyez.
Elle a peut-être compris, elle, du moins, le rôle qu'on lui a fait jouer.
Ce qui sera intéressé, c'est de voir. Quelle place, d'ici un an, elle occupera au Figaro? Ouais. Si elle sera achetée ou non. Vous voyez,
ce que je trouve formidable, c'est
qu'on est
dans un pays qui est, endetté au-delà du possible, qui est dans un état de déliquescence absolue, avec, il n'y a plus aucune autorité, les trains sont attaqués,
de la déclinologie.
Non, mais de quoi on parle? On parle, enfin, qu'est-ce qui compte pour Sarkozy, qui est quand même ministre de l'Intérieur, chef du parti principal de la majorité et candidat à la présidence de la République, de quoi il se s'occupe. Il s'occupe de montrer sa petite tronche à chez Virgin Megastore pour que tout le monde sache que Pomponnette est revenu. Mmh. Pomponnette, tu es revenu.
Salope. Oh, pardon.
Non, mais c'est quand même fabuleux.
C'est d'ailleurs une question que je me suis posée, c'est que les Français aiment bien les gens qui pardonnent et tout ça, mais on le dit à Bill, mais je me suis posé la question de savoir si les Français, dans ce personnage, avec cette femme qui est partie, qui s'est quand même fait voir et tout ça, et qui revient tout d'un coup, ça a un rôle, ça a un nom dans la langue française, ouais. Ça porte une couleur jaune en général, ouais. Et je suis...
Non, bleu maintenant, c'est vrai.
Ah bon, c'est bleu.
C'est bleu depuis...
Mais ah bon, je me suis posé la question si...
Oui. Je ne plaisante pas.
Ah bon.
Ouais. Mais je me suis posé la question si c'était un bon rôle pour lui et si c'était voilà.
C'est ce qu'on appelait nous CBC.
Oui.
Cocu battu content.
Content, voilà. Oui.
Est-ce que les Français aimeront ce...
Cela dit,
je crois pas qu'ils. Moi, je ne pense pas que les
gens. Oublient, mais...
Moi, j'aime pas, hein, pour tout dire.
Ah bah non.
C'est pas. J'aime pas.
Mais pour revenir à ce que vous disiez, pour un parti qui part en C, ça paraît pas.
Et de tous les candidats potentiels en dehors de Villiers, lequel n'a pas de notice chez vous? Beauvais.
Oui, Beauvais, il y a une très longue notice. Oui.
Besancenot, il y en a une.
Oui. Oui, il y a une notice de Besancenot, une notice de Laguiller.
Royal.
Ségolène Royal, oui, évidemment, oui.
Madame Royal.
Bien sûr.
Richemont, non. Vous savez qu'elle y croit vraiment, hein.
Oui, mais c'est normal.
Ah bon.
En plus, elle est, pour moi, c'est la candidate idéale. Elle a très très fortes chances.
Voilà, l'auditeur qui dit, j'arrête d'écouter Radio Courtoisie car on dit trop de mal de Serge de Beketch. Merci monsieur, solidaire. Solidarité nationale.
Vous avez suivi son numéro au Chili?
Oui, mais alors par exemple, l'histoire du numéro au Chili, c'est absolument extraordinaire parce que... Elle ne figure pas parmi... C'est pour ça qu'il faut... Enfin, j'aime bien, moi, suivre les détails de la vie politique vécue de l'intérieur par les dirigeants. Elle s'est jamais occupée des relations avec l'Amérique latine.
Non, jamais.
Ça ne l'a jamais intéressée.
Ah, ça explique son accent en espagnol qui prête un peu à rire.
Elle ne figure pas parmi les signataires de la pétition du Parti Socialiste Français en faveur
de la candidate,
qui a été élue. Elle ne figure pas dans les 120 invités qui devaient s'y rendre. Elle se rajoute, en prenant un strapontin, et arrivée là-bas, la presse, et c'est là où la presse est complice, parce qu'on ne sait absolument pas ce qui s'est produit là-bas, la presse la présente comme, en gros, conduisant la délégation.
Enfin, c'est la chilicone incarnée. Hein. Merci, chef.
Bravo, vous pouvez revenir en deuxième.
Les marqués des Olmeta.
Que pensez-vous de ce bruit qui court selon lequel M. Chirac aurait entrepris de faire construire un magnifique palais au Maroc? Ah ben voilà, néo-baroque.
Non, c'est pas lui.
Paléo-baroque, c'est pas néo-baroque, c'est paléo-baroque.
C'est pas du tout lui, c'est le président du Sénat.
Bon, Chirac a bel et bien...
Strauss-Kahn aussi, non?
Bah, Strauss-Kahn, c'est déjà fait, lui.
Chirac a bel et bien passé les fêtes.
Le président du Sénat, c'est...
Poncelet.
C'est Christian Poncelet.
Laissez-le
à son âge, il se fait construire un palais à Marrakech.
Il est né là-bas.
Oui, mais c'est...
Il est né là-bas, en
fait. Non, mais il y a eu un article dans Minute là-dessus, où le nom était caché. Enfin, on disait un des principaux personnages de l'État qui habite au palais du Luxembourg. Enfin bon, c'était quand même assez... Enfin, c'est pas exactement ça, mais bon, toute personne qui lisait l'article pouvait deviner que c'est Christian Poncelet, quoi.
Chirac a bel et bien passé les fêtes au Maroc.
Oui, à la Gazelle d'Or, à Taroudan, comme tous les ans.
Bon. Le marquis nous fera sûrement un compte-rendu un de ces jours.
Il n'y a qu'à demander.
Il a l'air de trouver ça normal.
Ah non, pas du tout. J'ai toujours dit partout que je trouvais absolument anormal qu'un président de la République passe ses vacances hors du territoire français.
Absolument.
Voilà, ça, j'ai toujours dit ça partout.
Ben oui, parce que le fort de Brégançon, là, c'est nous qu'on paye.
C'est peut-être qu'il veut s'entraîner pour le cas où Sarkozy serait élu, parce qu'il va faire comme Noah.
Comme Noah, va s'en aller.
Si Sarkozy est élu, je quitte la France.
Tant mieux, pourvu qu'il soit élu.
Un mot de la librairie que vous parrainez?
Oui. Oui, ben donc j'y serai, donc c'est la librairie Facta, là. Patrick Goffman a eu la gentillesse d'en parler, donc c'est une librairie qui vend plutôt des livres d'occasion, anciens, enfin récents, mais uniquement d'occasion, et puis là, j'y ai mis une partie de mon stock d'encyclopédies, et donc j'y serai demain après-midi et samedi après-midi
pour
dédicacer les gens.
Il faut donner l'adresse
aux gens.
Bah oui, tant qu'à faire.
Et c'est vous qui en aviez parlé, bon, comme d'autres, bon, donc jusqu'au 15 janvier, d'ailleurs ça tombe bien, ça s'arrête ce week-end, là je la fais encore au prix souscription de 70 euros, à partir de lundi, ce sera 98 euros.
Voilà. Oui, par correspondance.
Voilà. Bon.
Et
on peut aussi, on peut écrire donc ou
passer dans rue de Clichy.
Facta, 4 rue de Clichy, Paris 9e. Et donc, si bien rue de Clichy, c'est métro Trinité, c'est pas
en haut
en montant vers la place de Clichy. Ouais.
C'est juste à l'église de la Trinité, et pour les autres, c'est aussi à côté du casino de Paris. Voilà, choisis ton camp, camarade.
Pour nos auditeurs lointains, donc ils envoient quelle somme pour commander votre encyclopédie?
75 euros.
Port compris?
Oui, oui. Voilà. Et j'ai eu la surprise.
Non, on dit pas port compris, parce que c'est après les
musulmans. Oui, mais quand on dit franco de port, on a aussi un kikiné.
Et pour finir, puisque je vais rendre un hommage à Radio Courtoisie.
Non.
Si, si. Puisque j'ai eu un Marocain qui est venu me voir, un jeune homme de 28 ans. Qui est venu à la librairie, parce qu'on en avait parlé sur Radio Courtoisie, qu'il écoute en permanence à Casablanca via Internet. C'était un fin connaisseur de Léon Daudet. Il a acheté 7 ou 8 Léon Daudet. On a parlé de Marcel Aimé, il en a pris une dizaine. Et il m'a dit, c'est la meilleure radio de France.
Ah, voilà. Ça fait plaisir.
Donc, j'ai trouvé vraiment sympathique.
Mauvais temps pour les autres.
Oui.
Sachant que c'est une radio associative et qu'on bricole.
C'est peut-être pour ça que Chirac y va pour l'écouter. Hein.
Est-il vrai que Ségolène Royal se prénomme en premier Marie Ségolène?
Mais bien sûr,
Marie Ségolène.
J'ai publié son acte de naissance dans le premier volume.
Est-il vrai que son père est gendarme? Est-il vrai qu'elle est élue des Deux-Sèvres? Qu'elle réside à Neuilly?
Il n'est pas gendarme, son père. Il était président de la République.
On a aussi dit que c'était la fille de Mitterrand. Bien sûr.
Non, son père était colonel. Oui. La plupart de ses frères et sœurs sont une grande famille. J'en ai longuement parlé. Ils sont engagés dans l'armée. Il y en a un qui était au commando Hubert.
Non, mais c'était un ragot qui avait été lancé au moment où elle a été nommée désignée par Mitterrand tête de liste dans les Charentes. Dans la Charente, Charente-Poitou d'ailleurs, le bruit avec
les Deux-Sèvres.
Les Deux-Sèvres ?
C'était les Deux-Sèvres. La région s'appelle Poitou-Charentes, mais c'est les Deux-Sèvres.
Comme elle était née un an après que Mitterrand, gouverneur des colonies, allait faire un tour ou résidait
Voilà, il y avait un gros malin qui avait lancé un ragot en disant « Regardez là, c'est le portrait de son père, c'est la fille de Mitterrand.
Bon, »
Alors donc, voilà, ça la poursuit depuis.
Voilà, c'est une espèce de rumeur qui court.
Oui.
Il y en a beaucoup, j'essaye. Bon, je leur tords pas le cou, mais j'en parle pas, parce que c'est...
De toute façon, on en lancera d'autres, c'est pas grave.
Le tireur de Ségolène Royal...
Ce qui est certain, c'est qu'elle a une cousine qui est au Front National.
Oui, qui a été candidate.
Sous le nom,
je connais d'ailleurs, et d'ailleurs on pourra faire une émission, enfin l'interroger, puisque j'ai son téléphone et je lui ai dit si Ségolène Royal est candidate, est-ce que vous acceptez de parler d'elle? Elle habite, je crois, à Bordeaux. On vous appellera de Radio Courtoisie. Elle m'a dit oui, quand vous voulez, j'ai son téléphone pour le jour où elle sera candidate.
C'est charmant, ça c'est rigolo.
Mais c'est royal comme cadeau.
Mais ce qui est drôle, ça va vous plaire, c'est que ses supporters au PS, parce qu'ils n'ont pas trop envie qu'elle soit candidate, ils les appellent les royalistes.
Les royalistes, Fabius a dit aujourd'hui à la radio, je ne suis pas royaliste.
Le Syrien réfugié, je vous dis, nos auditeurs savent tout.
Oui.
Le Syrien réfugié à Paris, qu'on causait tout à l'heure, ça c'est moi qui le dis, c'est pas lui qui l'écrit.
J'imagine.
Qui dénonce son gouvernement, est marié avec une arriérée. Tenez, je vous donne ça
pour
le numéro 3 de l'encyclopédia Politica Francesa.
Emmanuel Ratti.
Universaliste. Voilà.
Et on nous signale la sortie ce matin du livre du général Bijard, Adieu ma France, où il fait le point de notre décadence.
Encore de la déclinologie, mais c'est un scandale.
Et espère un sauveur qui ne peut être Chirac.
Je croyais qu'il jouait le bourgeois gentilhomme, je comprends rien.
Qui?
Bigard, non?
Ah non, Bigard.
Ah oui, non, j'étais
bizarre.
Oui.
Bigard, le général le plus vulgaire de l'armée française. Bien.
Est-ce que je peux vous lire une histoire marseillaise?
Allez-y.
Je nous envoie un auditeur. À Marseille, il y a un Algérien qui a fait fortune en 8 jours.
Ah bon? Il y a un Algérien à Marseille?
Incroyable.
Et celui-là a fait fortune en 8 jours. Il s'est mis à la sortie de la cathédrale avec un panneau.
Ouais.
Ayez pitié d'un pauvre Algérien à qui il ne manque que quelques euros pour rentrer au pays.
Je ne sais pas combien il y en a d'Algériens à Marseille, mais il y a 62 mosquées, pour ceux qui s'intéressent.
En Hongrie, quand on raconte une blague comme ça, on répond par un geste. C'est-à-dire on met la main à la hauteur de la ceinture, pour être poli, et on met la paume vers le bas, et puis on retourne, et on met la paume vers le haut. Et ça veut dire, quand j'étais haut comme ça, elle avait une barbe comme ça. Pagnate ?
Une auditrice dit le dictionnaire des mythologies indo-européennes édité par monsieur Ratier est remarquable.
Ah oui, ça existe encore ça?
Non non, il est épuisé.
Ah, mais tout est épuisé, je vous dis à vous.
Et lui-même ne se sent pas très bien.
Tout réédité, voilà.
Bien.
Vous écoutez Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie qui est un drame pour moi, dit cet auditeur. Je n'arrive pas plus à faire quoi que ce soit d'autre que d'écouter. Et pourtant, j'ai beaucoup de travail. Vous êtes particulièrement en forme ce soir.
Écoute,
merci.
Écoute.
Oh, mais il nous a pas vus. Hein.
Ouais. Si vous voyez la bande de Kakoshim, excepté Jean-Pierre qui est magnifique.
Ah oui, superbe, ça, bien sûr.
Ah, allez, c'est vraiment... Là, on voit un homme qui se conserve. Qui...
Et le marquis qui a perdu 5 kilos.
Ouais.
Et qui a un teint de jeune fille.
J'ai dit ça à Madame Kempf, qu'elle m'a dit, bah voilà, prenez exemple, 5 kilos de moins, parce qu'il marche en plus.
Oui, je marche.
À la pile.
Bien, je vais maintenant... de communication, Emmanuel. Des questions, Emmanuel.
Monsieur Ratier, sait-il que Christian Poncelet a commencé sa vie au 246 rue de Charenton?
Ça, c'est vraiment...
Deuxième étage, porte gauche.
J'étais son voisin et on s'amusait bien. Voilà, voilà.
Voilà, voilà une information pour Ratier. Deuxième étage, porte gauche.
Il prend des notes frénétiquement. Là.
Alors écoutez, messieurs, les événements...
Son stylo pourri.
C'est la première fois que je vois un Le Pen qui rend quelqu'un tout noir.
Les événements sont suffisamment graves. Je vous en prie, arrêtez vos sottises et certaines de vos dérisions.
Ah, c'est le même qui nous a écrit ces rires continuels.
Arrêtez d'avaler votre salive au micro, c'est dégoûtant. Je le tiens, ça salive au micro.
Oh, il se trompe d'émission, là, il se trompe d'émission. Oui, oui.
C'est un message en retard, ça.
Oui. Bien, qu'est-ce qu'on disait
c'est la tout. Soupe au cochon.
Bon, maintenant, je me tourne vers Jean-Pierre Rondeau. Mais messieurs, arrêtez de chahuter. On vient de vous dire que les événements sont graves. Là, on n'est pas à la rigolade.
C'est rire continuel.
Avant que vous...
C'est insupportable.
Une question d'auditeur. Avez-vous eu les résultats quant au don pour Rio Monde?
Ah oui, je voulais poser la question.
Oui, combien on touche?
Eh ben, alors écoutez, non, je dois dire que je sais pas parce que j'attends mon petit pourcentage. Non, blague.
Arrêtez.
Non, il faut pas dire ça parce que
les gens arrêtez.
Croient. Bah, évidemment.
Il y a 10 crétins qui le croient, ils ont qu'à téléphoner.
Enfin, les crétins, c'est des auditeurs.
Non, mais ceux qui comprennent pas.
Bon. En tout cas, c'est pour de rire que je dis ça, je ne touche point un rond, hélas. Alors curieusement, je n'ai pas eu de nouvelles. À mon avis, ils n'ont pas fini de compter.
Il a levé le pied avec, peut-être.
Ah, peut-être qu'il est parti.
pour aller boire ça à Cuba. Le père Arguarche. Allô, mon père?
Je suis au Brésil.
Et de derrière, on entend les maracas.
C'est pas du tout les travaux de l'église, c'est les maracas.
Le pot.
Mariette.
Bon, non, mais on va l'inviter prochainement et puis il nous dira.
Il va dire ce qu'il manque.
On va le faire parler, oui. Oui. On lui mettra la lampe dans la figure. Donc, je reçois Jean-Pierre Rondeau parce que... D'abord, parce que je l'aime bien. Pardon.
Bon, c'est rare pour cette
parce
fois.
Parce que il a levé un lièvre formidable. Alors,
l'arbre royal.
Oui. Jean-Pierre Rondeau, d'abord, c'est un... c'est pied noir, rapatrié. Je ne sais pas comment on dit, parce qu'il y a des rapatriés qui
non, je ne suis pas un rapatrié, puisque... Non, je ne suis pas un rapatrié, je suis un pied noir.
Rapatrié.
C'est un nom que nous avons pris qu'en 62. On ne l'employait pas beaucoup en Algérie, ou on ne l'employait pas. Mais bon, maintenant, c'est un titre d'honneur pour moi. Donc, je suis un pied noir, je ne suis pas un rapatrié, puisque ma patrie était aussi là-bas. Donc, voilà, je suis un dépatrié d'Algérie, et un dépatrié de la Seine-Saint-Denis aussi, comme je dis souvent.
Président de l'Association des Anciens du Lycée de la Mauricière.
Oui, et de l'Association des Patriés aussi. Mmh.
Et en tout cas, vous vous occupez beaucoup de la question, d'une question qui ne concerne pas les pathos, parce que ils sont évidemment, ils savent même pas ce que ça veut dire. Et qui est la question du lieu de naissance. C'est-à-dire que pendant des années et des années, les Français nés dans les départements d'Algérie portaient sur leur papier le numéro du département d'Algérie en question, c'est-à-dire 92, 93, 94 et 95, je crois, puis il y en avait encore d'autres.
C'est pas tout à fait ça, mais
pas ça, mais
je
en
reprends,
gros, c'est ça.
On y va.
Oui, oui. Alors, dites la vérité pour moi.
Bon. En fait, les gens qui avaient travaillé dans leur en Algérie avant l'indépendance portaient le numéro des départements qui existaient là-bas, donc 91, 92, 93 et 94.
Ça, c'est exactement ce que j'ai dit.
Avant que la voilà. Mais quand ceux qui ont ont démarré à travailler comme moi en arrivant en France, on nous a mis le 99 qui était le code qui concerne tous les gens nés à l'étranger. Nous nous sommes battus pendant de longues années et nous avons obtenu il y a une dizaine d'années de Monsieur Juppé, puis ensuite confirmé par Madame Aubry de façon plus longue, le fait de pouvoir récupérer nos numéros de département de naissance. Donc j'ai changé à ce moment-là de code de département et de code INSEE du moins, et ce qui m'a fait changer un certain nombre de papiers. En l'an 2000, ont été créés les fameux passeports électroniques, les premiers passeports électroniques, qui comprennent un code de trois chiffres, de trois lettres, la France c'est FRA, et donc pour l'Algérie c'est DZA, puisque le nom actuel de l'Algérie n'est pas Algérie comme on le pense, mais c'est Djezaïr. Et donc dans le code de l'aviation civile qui a été utilisé, c'est DZA. Et donc nous, Français d'Algérie, on s'est retrouvés à partir de l'an 2000, mais les passeports n'existaient pratiquement pas en France. Ils ont été créés surtout à partir de 2003, quand les Américains ont obligé les gens qui venaient aux États-Unis à avoir un passeport électronique. Et là, les passeports sont sortis. Et donc, c'est à cette époque-là que j'ai lancé le combat contre le DZA, puisque non seulement le DZA nous a tiré des ennuis en arrivant aux États-Unis ou dans des pays comme Israël, puisqu'on était fiché comme né dans un pays musulman, donc potentiellement dangereux. Mais aussi parce que ça transformait l'histoire de notre pays. C'était la négation des départements français d'Algérie, c'était la révision de l'histoire, ça nous faisait disparaître. Au mois de février, j'ai lancé des pétitions, j'ai fait écrire par des tas de Français d'Algérie à leurs députés, à leurs sénateurs, qui eux-mêmes ont relancé le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur qui était Villepin à l'époque, et puis le Président de la République.
Ce que vous devriez dire peut-être aussi, c'est...
Il me voit maintenant, bon, Ratier.
Des problèmes énormes, par exemple, pour des choses très simples comme avoir son extrait de casier judiciaire.
Ça existe toujours, ça. Hein. Aujourd'hui, par exemple, pour mon extrait de casier judiciaire, tout le monde peut le demander par Internet. Moi, je ne peux pas le demander par Internet. Si on est né en France, en métropole ou dans les DOM-TOM, on peut. Moi, je suis né dans des départements français, mais je n'ai pas le droit, je suis considéré comme étranger. Et je dois prouver ma filiation, donc le nom de mes parents. De la même façon que, ayant récupéré le 92, comme je le disais tout à l'heure, ma feuille d'impôt comportait le 92, mais depuis qu'ils ont mis les impôts sur Internet, je ne peux plus, et ils ont oublié de programmer Internet, et mon 92 au rang ne passe pas. Mais là, donc, je reviens sur le DZA, donc le monsieur de Villepin, donc interpellé au moment de la loi, en plus sur la loi sur les rapatriés, a été interpellé par des questions qui ne concernaient pas la loi, mais bousculé donc à l'époque par pas mal de députés qui avaient des pieds noirs comme électeurs ou des députés de gauche qui voulaient embêter le gouvernement. Qui voulait embêter le gouvernement. Nous avons obtenu donc de Monsieur de Villepin par une note du mois de mars que le DZA soit supprimé. Donc depuis le mois de mars, une note est partie de Monsieur de Villepin dans toutes les préfectures et demande au préfet de supprimer dans nos passeports le DZA. Donc nous sommes nés à Oran sans précision de pays de naissance, ou à Alger ou à Constantine sans précision de nom. Donc nous étions plutôt contents, pas très contents, parce qu'on préférait récupérer, comme on l'a dit tout à l'heure, les départements d'origine et puis le mot France. Mais en tout cas, c'était mieux que d'avoir le DZA sur nos papiers. Donc, la première affaire s'arrête là. Une certaine victoire dont nous étions contents. Et l'affaire donc que je viens de soulever et que j'essaie de faire passer dans les médias, et je vous remercie de me recevoir, même les gens n'arrivent pas beaucoup à la comprendre, même mon ami Ratier n'a pas encore compris, parce que c'est une bombe, et qui ne concerne pas certainement que les pieds noirs, qui concerne peut-être tous les Français. C'est que j'ai découvert que nous avions un code secret, c'est-à-dire que M. de Villepin nous a menti par omission et nous a en tout cas trompé dans tous les cas, puisqu'il nous a dit je vous enlève le DZA apparent, mais nous avons un code secret dans nos papiers.
Alors le DZA apparent, il est remplacé par quoi ?
Par rien. On par a rien. Oran, je suis né à Oran, pays de naissance, vide complet.
Oh, bah alors.
Voilà. Oui, mais c'est mieux que d'avoir des aides pour moi.
Ah oui, non, j'entends bien.
Je suis désolé.
CDM, citoyen du monde.
Voilà. Oui, mais
Passeport d'enseigne.
Mais bon, on n'est pas d'accord, bien sûr, là-dessus. Mais à la limite, c'est moins grave. Tandis que là, je découvre qu'on a un code secret qui est le ZZD. Alors, le DZA, je pouvais vous dire ce que ça voulait dire.
Zahir.
Le ZZD, je ne peux pas vous le dire. Mais des éléments me font penser que peut-être d'autres ont un autre code. Alors, si vous avez encore 5 minutes, hein, je vous décris donc. Comment cela s'est-il passé? C'est que des fonctionnaires ont commis des erreurs. Quand les gens qui avaient le passeport des ZA sont retournés voir les préfectures à ma demande avec la note de M. Villepin disant qu'il fallait supprimer le ZA, donc ils sont retournés dans les préfectures, ont dit refaire mon passeport. Et donc à ce moment-là, les fonctionnaires de préfecture, certains ont refait le passeport et on a retrouvé un ZZD, alors ça concerne que 5 passeports, hein. Ou certains autres ont dit, monsieur, ça sert à rien que je vous enlève le DZA puisque je vais vous mettre un ZZD. Alors, les gens ont dit, mais comment la note de monsieur Villepin? Ah oui, mais il y a une note secrète de monsieur de Villepin. Il y a une note secrète de monsieur de Villepin et, on peut pas vous dire, alors avec un certain souvent mépris, une certaine autorité de fonctionnaire, en disant, monsieur, vous n'avez pas à savoir, c'est un secret, on n'a pas à vous le dire.
Or, incroyable.
C'était 5 préfectures.
Pour qui je prends ce trou du
alors, c'était 5 préfectures différentes. C'est-à-dire que si c'était arrivé d'une seule préfecture, je me serais dit c'est une erreur d'une préfecture. Mais il s'agissait de 5 préfectures différentes et de gens qui avaient été dans des endroits différents, à qui on disait on vous le refait pas puisqu'on va vous mettre le ZZD. Donc ça venait d'endroits tout à fait différents. C'était ça a commencé au mois de mai. Le premier passeport, j'ai dit c'est une erreur. Et puis à partir du deuxième, du troisième, j'ai relancé la machine en envoyant donc les gens se faire dire mais pourquoi on me met un ZZD immédiatement. Donc on leur a dit c'est une note secrète, on n'a pas voulu, mais on leur a saisi les passeports et on leur a fait refaire un passeport sans rien du tout. Donc j'ai les photocopies de passeport, j'ai les preuves, puisque j'ai les témoignages de gens qui disent avoir ça, et depuis une semaine, Serge vous ai passé lors de l'enterrement de notre ami Château-Jobert, je vous ai passé la note, j'ai un échange maintenant officiel d'email entre deux administrations, donc j'ai un de mes compatriotes qui est parti se faire refaire son passeport, il vit à l'étranger, et il va au consulat, et il dit, eh ben refaites-moi mon passeport. Et si vous permettez, donc je vous lis ce qu'écrit la fonctionnaire du consulat qui écrit à Nantes au service des passeports, hein, enfin au service des états civils, et il dit j'ai été interrogé par un Français né à Oran sur la j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que ce passeport là qui est le sixième, il porte ZZC, il porte plus le ZZD, il porte le ZZC. Ah, donc c'est une double erreur parce que ce sont des fonctionnaires qui ont sorti un code qui devait être officieux, qui devait pas apparaître, qui est caché certainement dans des lettres électroniques, ce sont des passeports électroniques, donc un ZZD ne devait pas apparaître, mais en plus le type se trompe et met un ZZC qui est soit quelque chose qui veut rien dire en tapant ZZC au lieu de ZZD, soit quelque chose qui concerne d'autres personnes qui sont peut-être fichées.
Oui, mais c'est pas grave parce que vous n'avez pas à le savoir, mon ami.
Voilà, alors, voilà, je vous lis donc l'échange qu'il y a entre ce consulat et le passeport. J'ai été interrogé par un Français né à Oran sur la signification des lettres ZZC portées sur son passeport Delphine. Comme il n'est plus question de porter des Z, c'était des ZA, et que l'on ne veut pas mettre F, qui veut dire France, et il se trompe d'ailleurs, c'est FRA qu'on met, l'intéressé demande ce qu'il doit mettre sur son formulaire pour obtenir un visa américain à l'ambassade des États-Unis de Buenos Aires. Ben voilà, c'est à Buenos Aires que ça se passe. Cette dernière n'acceptant pas le ZZC et l'intéressé ne voulant pas inscrire Algérie. Donc ça, c'est la question. Et voilà la réponse de Nantes. Ah. Le passeport établi comporte une erreur de saisie dans le... Et vous allez voir la contradiction. Le passeport établi comporte une erreur de saisie dans le code de pays de naissance. C'est en réalité le code ZZD préconisé par le ministre de l'Intérieur, qui nous a dit qu'il nous faisait sauter le DZA, je vous rappelle. Préconisé par le ministre de l'Intérieur, qui était, à l'époque, c'était Villepin, maintenant c'est Sarkozy, mais celui qui nous a fait sauter, c'est le ministre de l'Intérieur. Et qui concerne les Français nés sur le territoire algérien avant le 3 juillet 62, qui devaient figurer sur la demande de passeport. Merci de prendre contact avec la personne pour restitution du passeport, pour établir une nouvelle demande.
Et alors voilà la contradiction. Le nouveau livret sera alors conforme et seul apparaîtra la ville de naissance sans mention de code pays ainsi que le préconise le ministre de l'Intérieur. Donc le même type vous dit qu'il faut mettre ZZZ, dans l'autre il vous dit, dans la même phrase, enfin la même paragraphe,
sans mention de
il vous met. Donc ma conclusion, donc d'abord nous sommes fichés par un ZZC alors que le premier ministre actuel, mais ministre de l'Intérieur, nous a dit soyez rassurés, on vous repérera pas, on vous enlève le DZA, il nous a mis un ZZC, donc c'est d'abord au moins un mensonge ou en tout cas un trafic. Alors, et comme il y a peut-être ce ZZC qui concerne peut-être des gens nés ailleurs, peut-être qu'il y a eu, je me dis que peut-être nous ne sommes pas les seuls à être fichés, et vraisemblablement je pense notamment à nos amis qui sont nés au Maroc ou en Tunisie. Voilà. Donc ça concerne les libertés publiques, ça concerne la liberté des gens. J'ai été interpellé, bien alors je suis à plusieurs lettres commandées aussi bien au Premier ministre qu'au ministre de l'Intérieur. J'avais pensé jouer d'ailleurs la rivalité entre Sarkozy et Villepin, mais Villepin a botté en touche, il a envoyé à Sarkozy et Sarkozy me fait répondre à côté. Donc néanmoins j'ai interpellé donc la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, hein, et j'attends toujours une réponse de sa part, ça fait maintenant 2 mois. Et dernier point, dans quand même la lettre de Sarkozy, je tiens à dire à mes compatriotes qui ont un DZA parce qu'il y avait une dispute dans les, enfin dans les préfectures, il y avait 3 attitudes différentes pour ceux qui avaient le DZA et qui allaient se faire refaire le passeport. Il y avait des gens sympas qui prenaient le passeport et qui le refaisaient faire. Il y avait des préfets moins sympas qui le reprenaient mais qui disaient c'est à vos frais, on vous le refait à vos frais. Et il y avait des encore moins sympas qui disaient monsieur, votre passeport il a été fait depuis pour 10 ans. La note est sortie après l'établissement de votre passeport, revenez me voir dans 10 ans. J'ai une confirmation de M. Sarkozy comme quoi les passeports des ADA peuvent être faits et peuvent être refaits gratuitement. Voilà.
Alors, j'ajouterai quand même un détail qui éclaire le caractère incroyable de cette histoire, scandaleux de cette histoire, c'est que Le Parisien a publié il y a quelques jours une information selon laquelle il circule en France aujourd'hui 2 500 000 faux permis de conduire.
Absolument.
C'est-à-dire que dans un pays où on laisse circuler 2 500 000 faux permis de conduire, on nous pompe l'air depuis des années
pour
quoi quelques dizaines de milliers de passeports ou quelques centaines de milliers
centaines,
de passeports.
Centaines, même pas, parce que les passeports, ça concerne que peu, mais ça concernait aussi nos cartes d'identité.
Et pour des gens qui ne sont pas des voyous, tandis que ceux qui ont un permis de conduire faux, c'est des voyous quand même.
Donc on est vraiment dans un régime de mafia.
Ah oui, complètement. Là.
Où les mafieux protègent les mafieux. Et j'entendais ce matin une information sur Europe 1 qui est renversante. Il y a une jeune femme sur l'autoroute, je crois, qui a été verbalisée. Et le motif de verbalisation, c'est circulation à vitesse normale.
Non, mais c'est comme il y a eu quelqu'un qui a été condamné parce qu'il sortait de chez lui, il allait les vitres de sa voiture embuée.
Ouais, voilà.
Voilà. Bon.
Alors là, ce qui est intéressant, dans ce cas-là, vous pouvez pas y échapper. Là, vous morflez à tous les coups.
Ce qui est intéressant, à mon avis, mais Jean-Pierre le sait, c'est que je pense que ce système de codage, ça s'inscrit dans le prochain passeport biométrique.
Absolument, oui.
Où les gens n'auront plus qu'une donnée sur leur carte dont ils disposeront, qui sera une carte avec une puce, et les informations seront stockées dans la puce. Et il y a uniquement les lecteurs, les terminaux des ordinateurs de la police, de la gendarmerie et de la police de l'air et des frontières ou des douanes qui seront capables de les lire. Mais je pense que le code là dont tu parlais se trouvera évidemment dans la puce biométrique.
Oui, mais il est déjà dans les passeports puisque c'est une note secrète.
Et à mon avis, ils l'ont inscrit pour avoir un nouveau code qui permettront de ficher les Français.
Oui, mais alors que M. de Villepin ne nous dise pas qu'il nous fait sauter le... Et en plus, nous voulons avoir l'assurance que ce code se traduit par né sur le territoire français et non pas sur le territoire algérien d'après 62. Nous voulons que ça soit avoir cette certitude, donc qu'ils nous répondent.
Je voudrais vous poser une question là, parce que vous avez parlé de l'étranger. Je vais avec ça, je suis français, et je vais avec un document où il y a ça, au consulat américain à Buenos Aires. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne veulent pas me donner de visa parce qu'il n'y a pas de mention de pays en clair.
Si, parce que vraisemblablement, il y a une mention, comme je vous ai dit, secrète, qui est secrète. Nous avons un passeport français, donc Les Américains, ce qui les intéresse, c'est que les gens aient un passeport français. Ouais. La seule chose, c'est que quand vous êtes dans une file avec un passeport ancien et un passeport qui n'est pas électronique, je parle aux États-Unis il y a quelques temps, mais encore dans certains pays qui ne sont pas passés au passeport électronique, c'est que vous avez, par exemple, moi j'ai le cas, deux sœurs qui passent la frontière d'un même pays avec une avec l'ancien passeport et l'autre le nouveau. La seconde, elle est fouillée, elle est embêtée parce qu'ils sont nés au même endroit. Nous sommes nés dans un pays considéré comme un pays, donc dans un pays musulman.
Martinez m'a raconté que chaque fois qu'il passe une frontière, il a droit à la totale. Alors c'est incroyable,
je peux vous dire que dans une très grande entreprise aéronautique française, dont je ne citerai pas le nom, mais vous pouvez deviner laquelle elle est, au service du personnel, tous les gens qui sont nés en Algérie avant l'indépendance sont fichés DESADA toujours, et ils sont fichés en rouge. Pourquoi ? Parce que c'est une société qui est sensible en matière de sécurité, et c'est quelqu'un du service du personnel, c'est pour ça que mais c'est quelqu'un qui me l'a dit, nous sommes fichés en rouge et nous avons des ennuis en permanence. Mais moi je me base pas seulement pour les ennuis, Martinez ou d'autres m'ont appelé pour ces problèmes d'ennuis, je me bats pour la vérité historique.
Voilà. Merci Jean-Pierre Rondeau, vous restez une seconde, on va parler un petit peu du colonel Château-Jobert.
Où courez-vous, femmes qui dans vos presses, où courez-vous passer mes nuits? Mieux va venir, c'est l'heure de la messe. On ne voit plus mieux que la nuit. Vos temples sont des masures affreuses, où les bleus sièges en vainqueurs. Dieu trouve asile dans nos forêts ombreuses, aussi discrètes que nos cœurs. Près de l'autel, en ses retraites funèbres, à peine quelques torches lui.
Merci de passer la soirée en notre compagnie. Je vous rappelle notre rendez-vous musical de 21h tout à l'heure en compagnie de Claudio, la discothèque pour connaisseurs et amateurs. Pour commencer, 22h les musiques de films et à 23h les grands pianistes. Ce soir, un hommage à Youri Boukov avec des œuvres de Beethoven. Tout de suite, la seconde partie du Libre Journal de Serge de Beketch en direct. Vous écoutez Radio Courtoisie. Bonne soirée à tous. Il est 19h30. Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Beketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 11 janvier 2006 de 18h à 21h, en différé jeudi 12 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Jean-Pierre Andeau, il y a un message pour vous, pour vous montrer que vous n'êtes pas le seul à avoir des ennuis. Je connais quelqu'un qui est né à Beaufort, territoire de Beaufort, et quand il est allé à la mairie auprès de son domicile, la préposée à l'état civil lui a dit « Territoire de Beaufort, c'est dans quel pays ?» Voilà. Pouvez-vous rappeler que dans le livre préfacé par Jean-Pierre Rondeau, édité chez Dualfa, « Aspect véritable de la rébellion algérienne, Algérie médicale 1957 », il y a une étude sur la violence et un paragraphe faisant référence à l'égorgement des moutons auxquels les musulmans assistent très jeunes.
Oui, il y a surtout sur tous les crimes du FLN, et j'invite, Dualfa vient de sortir un deuxième livre à mon initiative qui s'appelle La Grande Honte et qui raconte tous les crimes du FLN de jour en jour, donc qui complète tout à fait le premier livre.
Enfin, il est quand même permis aujourd'hui aux défenseurs de la cause animale d'avoir une pensée pour les 200 000 moutons qui sont égorgés dans des conditions barbares. Alors évidemment, ils n'ont pas d'avocat, ils ne peuvent pas parler. Personnellement, je ne crois pas donner dans la sensiblerie, mais enfin, je pense à ces 200 000 animaux innocents. 200 000 animaux innocents qui sont égorgés dans des conditions barbares, dans des baignoires. Ça.
Mais non, ça n'existe plus. Tout
dans
ça,
la c'est... terreur, ouais. Enfin, c'est monstrueux c'est et ça promet. Serge, vous pensiez vous reposer quelques minutes en me confiant la tâche de défendre le libre journal imprimé seulement. Je suis obligé de commencer mon numéro en vous interviewant, puisque nous devons des comptes aux éditeurs auxquels nous avons lancé un appel, même plusieurs appels il y a quelques semaines, en leur disant qu'il nous fallait augmenter, simplement pour faire face à la croissance des frais généraux, des impôts, du papier, etc., il nous fallait augmenter notre portefeuille d'abonnés de 10%, c'est-à-dire très exactement ce qu'a perdu Libération au cours de l'année écoulée. Et est-ce que vous pouvez donner quelques résultats de cet appel? Est-ce que nous avons des nouveaux abonnés?
Mais d'abord, je peux remercier les auditeurs et les abonnés, les lecteurs du Libre Journal qui sont mobilisés pour nous aider à franchir ce cap, qui était un cap de désespérance. Hein. On était pratiquement foutus. Et on est arrivé donc à passer le cap. J'espère qu'on passera le prochain. On a augmenté le nombre des abonnés d'une façon significative, comme dirait un homme politique que j'aime bien. Étant donné que ma petite femme adorée qui tient les comptes et qui tient d'une main de fer... vous savez, Dans un gant de velours. Je n'ai pas accès au fichier des abonnés. Ça n'a pas confiance. Elle pense que si je l'allume sur l'ordinateur, il va s'effacer immédiatement.
Ah bon, c'est pas à peine que vous y ayez la nuit avec une lampe de poche.
Ah non,
comme
c'est
je vous l'avais suggéré.
Non, je n'ai pas le code, donc je ne peux pas entrer sur le fichier des abonnés. Non, mais je sais qu'on a augmenté le nombre des abonnés, pas de 10%, mais d'une façon significative. À mon avis, c'est de l'ordre de 5-6% peut-être. Donc, il faut. Bah oui, c'est déjà bien. 5-6% sur.
Ah oui, 5-6%.
Oui. Oui, non, pas 5-6 abonnés.
Pas 5% de l'objectif, mais.
Ah non. Je dirais qu'un peu plus de la moitié de l'objectif a été atteint. Et ça nous permet de voir l'année 2006. Avec une relative sérénité.
Bon, ça nous permet aussi.
C'est bien relatif parce qu'il y a toujours le tsunami fiscal, l'avalanche judiciaire qui menace, mais enfin bon, ça, c'est pas prévisible. Donc on n'est pas comme les grands journaux très riches qui peuvent, très riches de publicité, qui peuvent faire ce qu'on appelle, comment ça s'appelle des... Quand on met de l'argent de côté pour une éventualité,
les pains, les économies.
Non,
c'est provisionné.
Voilà, on peut pas provisionner les pertes parce que les grands journaux provisionnent les frais judiciaires. Voilà. Alors nous, on peut pas. Donc si une nation nous tombe dessus, hop, à dégager. Mais je renouvelle les remerciements. Il y a eu une mobilisation et surtout une extraordinaire gentillesse. Bon. Et ça, c'est vraiment les relations. Avec les abonnés sont très très particulières, parce que c'est pas du tout du baratin, c'est vrai, c'est une famille, on reçoit des petits cadeaux, des chocolats, des vœux, des lettres, ils nous disent « Ah, monsieur de Beckett, j'ai beaucoup toussé à la radio, alors il devrait aller voir tel médecin, il devrait prendre tel médicament et tout ». C'est vraiment...
c'est très particulier. Je crois, j'ai jamais connu ça. Quand j'étais à Minute, j'ai jamais connu autant d'empathie entre un journal et ses auditeurs. Pourtant, à Minute, c'est un journal fort. On avait beaucoup de relations avec les lecteurs. Mais à ce moment-là, jamais. On a l'impression de faire partie d'une famille.
Bon,
Et donc, merci aux cousins, aux cousines, aux frères, aux grands-pères, aux grands-mères, aux tantes, aux oncles.
On souhaite la bonne année à la famille et on lui dit, alors, puisqu'on s'adresse à elle collectivement, bah, de poursuivre son effort. Évidemment, ça ne s'adresse pas à ceux qui sont déjà abonnés, réabonnés, qui ont abonné des amis. On peut leur dire, continuez. Si vous êtes sur le point de vous abonner, si vous avez oublié, faites-le. Si vous ne connaissez pas encore le journal, je le présente en une minute ou deux. Le numéro 367 est sorti des presses aujourd'hui même avec une très belle photo du colonel Château-Jobert dont vous allez parler dans quelques instants à la une. Ce numéro comporte également texto, je l'ai signalé tout à l'heure, la pétition des 19 historiens institutionnels, pour ne pas dire de gauche, qui exigent l'abrogation de la loi Guesso. On a deux pages qui décortique un peu les dessous des trains d'enfer, que ce soit le Nice-Lyon ou le Melun-Paris. On a un grand entretien avec Wurmeling, que les auditeurs connaissent bien, sur la Sainte Tunique. On dit ce qu'il en est des menaces de mort qui seraient dirigées contre Finkielkraut. Et notre divin marquis, il se relisait à l'instant même sous mes yeux avec beaucoup de satisfaction, et je la partage, nous révèle qu'il est accusé d'être méchant et mal élevé dans certains milieux. Je n'en dis pas plus. Et ceux qui veulent savoir ce qu'il en est, quels sont ces milieux qui l'accusent d'être méchant et mal élevé, ils envoient 5 euros ou un carnet de timbre pour obtenir ce numéro 367. Les autres envoient 110 euros pour être abonnés pour un an. Les super radins consultent notre site internet, c'est gratuit. L'adresse c'est c'est France Courtoise. Oui, je suis gâteux, je suis idiot, je sais, merci. Pas la peine de téléphoner, on est au courant. Donc notre adresse électronique c'est France Courtoise.
Et n'avalez pas votre salive s'il vous plaît.
Ils sont gentils, maîtres, mes copains.
Alors, il n'arrête pas de tousser, c'est la voix de son maître. Il ne sait pas quoi faire.
Notre adresse électronique, je vais y arriver, c'est francecourtoise.info. Ça, c'est gratuit. Donc, 5 euros pour le numéro 367, 110 euros pour l'abonnement annuel. C'est à SDB, 4 Place France List, 75010. Paris.
C'est très bien. Il manquait que la publicité, que la petite musique. Jean Mineur, publicité. Bien. Ah oui, Jean-Pierre, je vous ai demandé de rester pour parler du colonel Château-Jobert parce que on s'est retrouvé donc à Sartilly pour ses funérailles. Et c'était assez émouvant, c'était même très très fort parce que il y avait une marée de bérets rouges, de bérets verts. Ah oui, moins de bérets verts quand même. Il y avait beaucoup de bérets rouges dans l'église de Sartilly. Et puis, on s'est retrouvé ensuite chez nos amis les Lemoine Le Chesnay. Alors, toute une petite bande. Et c'était vraiment tout à fait étonnant. Les gens qui étaient là, c'est des gens de la moyenne d'âge devait tourner autour de 60 ans à peu près. Vous étiez un des plus jeunes avec votre filleul.
Oui, avec mon filleul qui était là. Ouais.
Mais autrement, c'était des septuas. Mais attention, des septuas, pas
un beau parcours.
Pas ramolo, hein. Ouh là là. Ouh là 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 là. Il y avait
dans la région de Granville, j'ai bien compris.
Ouais. Oui. Ouais. Et il y avait quand même des gens qui avaient quelques états de service. Il y avait quelques années de prison. Hein.
Il y avait d'abord plusieurs de la DIMAD, plusieurs anciens de la DIMAD, donc les anciens détenus de la GIA française, des gens de l'OAS. Il y avait beaucoup de gens du milieu national, hein, enfin, et puis des pieds noirs qui étaient fidèles à ce qu'avait représenté pour nous Château-Jobert.
Hein. Alors ce qui était marrant, c'était qu'il y avait des gens du front, des gens qui avaient été au front qui n'étaient plus, il y avait des gens qui étaient au MNR, d'autres qui avaient été, mais qui n'étaient plus. Et il n'y a pas eu un mot. Alors que d'habitude, quand ça se passe pas très très bien. Là, il n'y a pas eu un mot désagréable. Et on sentait bien qu'on était réunis pour quelque chose de plus important que ça.
Et nous avons chanté.
On a chanté, on a
mangé et bu.
On a mangé et bu. Et puis on a dit du bien les uns des autres, ce qui était bien agréable. Et on a beaucoup parlé du colonel, qui était quand même un personnage assez extraordinaire. C'est un grand, grand, grand bonhomme de l'histoire de France. Alors je dois dire, c'est pas de la pub, là. C'est vraiment un coup de cœur.
Je parle de deux personnages. C'est un bel article, je viens de le lire.
Ouais. Je parle de deux grands bonshommes dans ce numéro, Château-Jobert bien entendu, et puis il y a quelqu'un dont je voudrais dire un mot aussi, qui est un peu du même métal,
et qui s'appelle Alexis Arrête, et qui vient de publier un recueil de poèmes intitulé Les armes de la nuit. Alors, les poèmes de... Enfin, Alexis Arrête en poète,
c'est pas habituel.
Pour le moins inattendu. Mmh. Si on le connaît pas, on trouve ça inattendu, parce que Alexis Arrête avait fait un livre de guerre fabuleux, un grand, grand livre qui s'appelait On m'appelait Bleu de Nuit.
Bleu de Noir.
Un grand bouquin, grand, grand bouquin. Et Alexis, c'est un personnage gigantesque. C'est vraiment un personnage de l'histoire, un personnage d'histoire, de l'histoire de France.
De notre histoire. Hein,
c'est un colosse historique, on a l'impression. Et il a écrit des poèmes somptueux. Et voilà, ça c'était très rassurant, très réconfortant de voir ça.
Juste un mot, c'est que il y avait un petit détachement très petit militaire, mais c'était quand même un compagnon de la Libération. Il figure encore il figure d'ailleurs sur le site des compagnons de la Libération, et il n'y avait aucun représentant de la Libération.
Je voulais vous poser la question, parce que pour moi, c'était extraordinaire que Château-Jobert fût compagnon de la Libération avec tout ce qui est venu après. Alors, je voulais savoir s'ils avaient fait ce qu'ils font d'habitude. Quoi.
Non, mais il faut rendre cette justice. Ils ont annoncé qu'ils feraient une cérémonie à Paris aux Invalides le 3 février. Donc là, je pense qu'il y aura des compagnons de la Libération. Il n'y aura probablement pas Mesmer, puisque Mesmer s'est opposé, a opposé son veto à l'élévation du commandeur de la Légion d'honneur à la dignité de Grand Croix.
Ou de Grand Officier, plutôt. Grand Officier d'abord, et après c'est Grand Croix.
Élever
la dignité de Grand Officier.
C'est Grand Officier, j'ai fait peut-être un lapsus.
Il était commandeur, Château-Jobert.
Oui, il était commandeur.
Donc c'est Grand Officier après.
Voilà. Et quand il a pas obtenu cette distinction qui lui revenait, ses amis se sont interrogés, ils ont posé la question, et c'est l'Élysée qui leur a répondu, nous nous heurtons à un veto catégorique de M. Pierre Mesmer.
Voilà. Il y en aura d'autres. Et on pense même qu'il a joué sur le temps. Quoi.
Et moi, à la limite, là, vraiment comme ça, parce que c'est des choses de protocole qui m'intéressent, je vois pas à quel titre M. Mesmer peut s'opposer, puisque en dernier recours, c'est la chancellerie qui est composée de X membres qui dit oui ou qui dit non.
Apparemment, il a.
Alors, je ne crois pas à l'indépendance de la chancellerie.
Non. Comme si vous me disiez que vous ne croyez pas à l'indépendance de la justice. Bon, on peut pas dire des choses comme ça, Marquis. C'est très déplacé. C'est très, très non, mais ou à l'indépendance des journalistes. Vous vous rendez compte des propos que vous tenez?
Oui, c'est vrai, je suis inconscient.
Bon, allez au coin, et puis les mains sur la tête.
Je vais laisser la place au docteur Dorme, mais vous m'autorisez à donner l'adresse de dépatrié?
Je voudrais que vous donniez l'adresse à laquelle on peut vous écrire, parce qu'il y a pas mal de messages de pieds noirs qui sont dans cette situation, des ZA, des ZZ, ZZD, etc., qui voudraient savoir exactement ce qu'ils peuvent faire.
Donc, soit Jean-Pierre Rondeau, soit dépatrié, soit le cumul des deux. Trois cours des Coulons, C-O-U-L-O-N. ONS 78 810 Feucherolles, FEUCHEROLES.
Alors je répète pour nos amis pieds noirs, c'est cours des Coulons, c'est pas cours des Coulots.
Alors, ni des Coulots, ni des Couillons d'ailleurs. Feucherolles, FEUCHEROLES.
C'est ça que j'ai appris à monter à cheval.
Et mon téléphone bureau 01
y a une plaque.
44 51 62 20. Merci beaucoup, Serge.
Merci, Jean-Pierre. À bientôt. Et alors, j'ai entendu, on va créer une rubrique de conseils financiers. Vous viendrez nous donner des conseils pour devenir...
Comment faire votre argent.
Oui, mais élégamment.
Le journal de Mickey.
À propos de... Non, ça n'a rien à voir, mais nous avons notre auditeur. Le journal de Mickey, oui. Nous avons notre auditeur, je suppose qu'il y en a plusieurs, mais lui, c'est un habitué, c'est M. Jalon de Montréal, qui nous envoie un fax, parce qu'il nous écoute en direct à Montréal. Bonjour à tous. Mon chien veut partir, ma femme veut rester, j'ai construit un igloo derrière chez moi. C'est vrai que l'as déjà lu?
Oui, vous l'avez déjà lu il y a 10 minutes.
Ah non, je ne l'ai pas lu au micro.
Vous l'avez lu pendant la coupure. Oh, excusez-moi.
Non, gâteux, mais pas quand même à ce point-là.
Oh là là. Mes jours sont comptés.
Alors, j'ai construit un igloo derrière chez moi et personne n'en parle. C'est parce qu'il n'a pas une bonne équipe de communicants comme Sarkozy.
Oui, c'est sûr.
Voilà, c'est tout. Bonsoir, docteur.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Bien, merci.
Vous êtes magnifique, vous êtes en pleine forme, là.
Enfin, je sais pas, mais...
Si,
vous savez, on parlait de M. de Villiers, là, je ne pouvais pas parler. Mais une chose est certaine, c'est qu'il est le seul, je crois, comme président du Conseil Général, je crois que je n'ai pas dit bêtise, à avoir fondé une maison maternelle. Honneur à lui, ça, je trouve que... Enfin, on peut disputer certaines choses, mais ça, j'apprécie, si vous voulez.
Voilà. Non, mais le seul qui a dit du mal, c'est Rondeau. C'est Rondeau, je le dénonce. Hein. Moi, j'ai pas dit de mal.
Non, voilà. Enfin, je... Enfin, bien sûr.
Donc, vous
voilà.
Êtes plutôt le péno-villiériste ou villiéro-lepéniste?
Nous avons pas mal d'amis du côté... Je connais Madame de Villiers aussi. Je l'ai rencontré, je le connais un peu, Monsieur de Villiers. Mais il a des bons côtés. Le seul reproche que je lui ferai, un grave reproche, enfin bon, c'est que il ne parle plus de l'avortement. Depuis 95, pas un mot là-dessus. Alors là, je trouve ça impressionnant. Et puis évidemment, il apporte ses voix ensuite à la majorité. Mais ça, je lui ai dit, je l'ai rencontré à Fongombo. Et
il a une fille à Fongombo, non?
Pardon?
Il n'a pas une fille qui est religieuse? Ah non, elle est religieuse à...
Je ne sais pas, mais là, il faisait une retraite.
Elle est religieuse en Bretagne.
Très aimablement, il s'est présenté. Et je lui ai dit ça, je lui ai dit, monsieur, enfin, on tue 1000 enfants par jour en France. Et il m'a écouté, il n'a rien dit. Et je lui ai dit, vous êtes à l'UNP, enfin voilà, mais si vous voulez, je le connais un peu et j'apprécie certaines choses et puis d'autres choses évidemment moins. Et au sujet de l'avortement, là, je voudrais qu'il soit plus
ferme.
Parce qu'à mon avis, si vous voulez mon avis,
on vous le demande justement.
Justement, c'est que une chose qui serait pour lui un atout formidable, comme il l'a d'ailleurs été pour Le Pen, je trouve, c'est que il se place du côté de la lutte contre l'avortement pour la vie. Il fera un tabac comme finalement en Amérique, de plus en plus une demande pour le respect de la vie. Les hommes politiques seraient assez malins pour, je dirais, rien que pour leur carrière politique, ils devraient se poser contre l'avortement, mais de façon extrêmement ferme. Enfin, je donne ce conseil, je ne crois pas qu'il soit mauvais, et il y sera de plus en plus, à mon avis, confirmé. Enfin, voilà. Alors, je vous dis
ça... Enfin, c'est pas votre cas, vous ne luttez pas contre l'avortement pour devenir président de la République.
Mais non, je suis un peu vieux pour ça, effectivement.
Quoi?
Non, pas vieux.
Enfin, coquetterie,
je ne sais pas, mais non, j'ai entendu des horreurs comme vous avez. Il y a 3-4 jours à France Inter, je crois que c'était un des vœux du président Chirac, il voudrait qu'on inscrive dans la Constitution l'abolition de la peine de mort. Ah, là, j'avoue que je n'ai pas pu m'empêcher de penser à une mascarade, parce que vraiment, jamais on a autant tué, dans toute l'histoire de France, jamais on a autant tué, et serait inscrit dans la. Il y a déjà dans la loi, ça suffit, enfin, j'ai une voix comme ça, mais jamais on a autant tué, et on aurait dans la Constitution l'abolition de la peine de mort. Je trouve que, vraiment...
Mais moi, je suis tout à fait d'accord, c'est très bien. Nous servira d'argument le jour où on aura reconnu que
c'est affreux.
Fœtus est un être humain.
C'est abominable. C'est-à-dire que on peut dire une chose et son contraire. Et là, on est en plein dans Babel. C'est-à-dire, Babel, comme vous le savez, ce n'est pas tellement la multiplicité des langues, c'est pas le problème, c'est pas la diversité des langues, c'est leur perversion. Parce que abolition de la peine de mort veut dire maintenant, je tue à tour de bras. Qu'est-ce que ça veut dire? Un médecin, qu'est-ce qu'il va faire? Un médecin, il peut soigner, très bien, j'en suis, tant mieux, mais il peut tuer. Et il tue même à tour de bras, puisque vous savez que 95% des gynécologues font des avortements. Enfin, et puis alors maintenant, l'euthanasie. Alors je dirais, avoir ces deux discours, on est en plein dans la culture de mort. C'est-à-dire, avant de vous tuer, on vous ment. C'est-à-dire que c'est typiquement diabolique. Hein, c'est pas de moi, c'est Saint Jean, n'est-ce pas? Il est menteur et homicide dès le principe. Je crois qu'on est en plein là-dedans. Et c'est véritablement la culture de mort. On a vraiment les ingrédients. Enfin, c'est impressionnant. Alors, venez.
D'ailleurs, c'est ça qui est... Parce que, de temps en temps, on me fait des reproches. On me dit, mais alors, d'abord, de quoi vous vous occupez avec l'avortement? Vous êtes des hommes, il n'y a que des hommes qui en parlent, etc. Les hommes participant à faire des enfants, ils ont quand même la voix à chapitre. Et deuxièmement, mais quand vous invitez le docteur Dor, il nous dit toujours la même chose. Il parle toujours de l'avortement, etc. Mais l'avortement, c'est un problème grave, c'est un problème... Ce que je crois, c'est que si on... C'est pas un problème détaché du reste.
Bien sûr que non.
C'est-à-dire que comme disait Sœur Thérèse, il est à l'origine de
tous nos malheurs.
De nos malheurs.
C'est le fer de lance.
On accepte la vie, enfin de supprimer la vie d'un enfant simplement parce qu'il est gênant. Mmh. Mais tout devient possible derrière.
Bien entendu.
Et alors quand on ajoute à ça le fait qu'on trouve, on interdit constitutionnellement de tuer une bête malfaisante. Oui. Un homme malfaisant, un grand criminel, etc., pour en débarrasser la société, comme on fait pour un virus. Alors, c'est un grand criminel, un type comme Fourniret, par exemple, s'il est trouvé coupable, bien entendu. un type comme Fourniret, s'il s'avère qu'il est coupable, c'est un virus, quoi. C'est un type, on sait, il a tué des petites filles de 13 ans, des jeunes filles, etc. Il les a torturées pour s'amuser, pour passer le temps et tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec un gars comme ça?
Moi, je pense
que c'est pas une vengeance, c'est pas.
C'est
tout simplement
justice.
Un acte de salubrité publique.
Mais oui, moi je pense que c'est même lui rendre service à lui, Fourniret, si jamais c'était lui, encore une fois. Mais quand la chose est avérée, je crois qu'on rend même service au coupable, parce que, mon Dieu, il a sa vie brusquement, il sait qu'il est condamné, et bien il va peut-être se retourner vers Dieu, il va se convertir.
Il y en a beaucoup qui réclament leur châtiment de façon.
Mais peut-être même exactement.
Par écrit.
Pour se racheter presque. Ouais. Ils offrent leur sang en quelque sorte pour le rachat. Enfin voilà. Mais alors ceci pour vous dire, je veux pas être trop long bien sûr, mais quand nous avons une manifestation, celle-là j'espère c'est une marche nationale, qu'elle sera d'une ampleur nationale. Et donc, vous l'avez déjà dit, j'en suis ravi, c'est donc le 22 janvier à 14h30, c'est à la République, le rendez-vous est place de la République, le cortège ira jusqu'à Opéra, donc 14h30, le 22 est un dimanche, donc en principe les gens ne travaillent pas ce jour-là, ils pourront venir. On peut venir avec femmes, enfants, enfin au contraire, les berceaux, tout ce qu'on veut. Il y aura une très grande sécurité, aucun problème. Il y aura peut-être un peu d'opposition, mais après tout, je dirais tant mieux, ça prouve que nous existons. Voilà, alors évidemment, je crains qu'il n'y ait pas beaucoup de journaux qui nous. Il y aura, je peux vous dire, des Polonais. J'en suis heureux. Radio Maria sera là avec la télévision. Enfin, nous aurons au moins cette radio polonaise qui diffusera ça à Varsovie. Ils ont une très grande audience en Pologne. Donc ça, au moins notre manifestation diffusera en Pologne. C'est déjà ça. Et je crois pas qu'elle paraisse à la télévision française. Mais chaque année, l'année prochaine, ce sera. Je vous dis aussi qu'elle est encadrée. Encadrée par qui? Par les Américains. Le 21 janvier, vous savez que Roe contre Wade, c'est le 22 janvier. Alors le 21 janvier à San Francisco, il y a un défilé contre Roe contre Wade, c'est-à-dire 1973, la loi qui admettait l'avortement aux États-Unis. Et puis le 23 janvier, marche sur Washington, là il y aura 200, 300 000 personnes avec, je pense, des cardinaux, des évêques. Alors là, c'est aussi un appel aux cardinaux, aux évêques, à venir avec nous. Nous serons en queue de cortège. Nous prions en queue de cortège et SOS tout petit, excusez-moi, nous faisons partie. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que c'est un collectif. Ça, j'oublie l'essentiel. Nous ne sommes pas tout seuls, évidemment, dans tout ça. Bien au contraire, il y a 10 associations. Et nous serons donc dans la partie terminale, disons. Et nous aurons notre sono. Et évidemment, chacun fait comme il veut. Il se met où il veut. Il peut même changer en cours de route. Voilà. Et nous passons par les boulevards. Je pense que le départ sera vers 3 heures. Le rassemblement vers 2 heures et demie. On sera à l'opéra vers 5 heures. Il fait nuit à 5 heures 4, je crois. Donc il fera encore jour. Voilà. Alors, je crois que moralité, on fait ça chaque année. On fera ça aussi l'année prochaine. Là, c'est peut-être moins brûlant qu'avant les élections présidentielles. Mais je vous ai dit peut-être déjà le chiffre. Mais je crois qu'on en tue de l'ordre de 3000 par jour. Et pour quelle raison? Alors officiellement, on en tue 600 à 650, ce qui est déjà un chiffre comparé avec les morts de la route. On en tue de 650 par jour, enfants, c'est ça. Eh bien, je pense qu'il faut multiplier le chiffre par 4 ou 5 ou même 6, on ne sait pas exactement. Pourquoi? À cause d'une raison très simple, ils ne sont pas tous déclarés, bien sûr. Et la deuxième raison, beaucoup, beaucoup plus importante, c'est que la contraception, qui se fait passer sous le mot de contraception, n'est pas contraceptive, elle est abortive. C'est-à-dire que le stérilet, comme vous savez, est abortif à tous les coups. Je ne vois pas comment il peut être abortif, il peut être contraceptif. Qu'on m'explique comment le stérilet, alors qu'il est in situ, localement, n'est-ce pas, on lui met une hormone qui abîme la muqueuse, qui l'atrophie. Le stérilet lui-même, il crée une inflammation parce que c'est un corps étranger. Donc la muqueuse de l'endomètre, c'est le nom, vous savez, qu'on donne à la muqueuse intra-utérine, n'est-ce pas, celle qui va recevoir l'œuf, eh bien, elle est impropre à le recevoir. Il peut y avoir une fécondation, le spermatozoïde n'est pas gêné par un petit crayon qui se trouve là, et il file vers le rejoindre l'ovule. il n'y a d'aucune fécondation. Quand il arrive, la place est prise, et hélas, évidemment, elle n'est pas propice pour nicher, pour, je ne sais pas quel est le signe, nicher, on peut dire nicher. Enfin, le malheureux, il est expulsé, et alors comme la femme n'y voit rien, parce qu'elle a ses règles normalement, après tout, seulement elle élimine un œuf au lieu d'éliminer un ovule, tout simplement. Alors là, si on compte, si 1 800 000 femmes portent un stérile en France, imaginez qu'il y ait un avortement par femme par stérilé en France, ça fait 1 800 000 avortements rien qu'avec le stérilé. Le stérilé est très utilisé en France. Je crois que c'est le pays qui est le plus utilisé. Il faut que les catholiques le sachent. Nos prêtres ne savent pas bien ça. Ils ne le disent pas, ils n'osent pas le dire.
Mais ils n'en parlent pas.
Mais moi, je suis médecin, je ne suis pas gêné pour le dire. Un catholique n'a pas le droit de... Une catholique n'a pas le droit de mettre un stérilé.
Il est presque 20h, alors moi je me tourne vers les auditeurs et je leur dis, vous êtes bien sur Radio Courtoisie, alors vous retournez la télé contre le mur et vous restez avec nous.
Merci docteur.
Venez le
22 janvier.
En rang serré, nous étions 7 ou 8 000 la dernière fois, si nous étions le double, je rêve peut-être. Mais... Alors il y a Renaissance catholique, j'ai honte de ne pas avoir nommé Renaissance catholique, il y a Choisir la vie au CPA, il y a le CSEN, Comité pour ces jeunes enfants, un être de M. Grenouillot, il y a Rivage de Tours, ils sont importants.
Il y a cette association qui fait le livre blanc
Renaissance
aussi,
catholique.
Le livre noir.
Et j'oublie le livre blanc, le livre noir qui est paru. Achetez-le, il en coûte 8 euros. 8 franchement, euros. C'est pas grand-chose. À mon avis, il a un petit format de poche. Alors là, il y a plusieurs collaborateurs, dont je suis par exemple. Et l'amiral Berger a beaucoup écrit. Il y a Madame Desvart, qui est tout à fait remarquable, qui est une magistrat. Enfin, il y a des belles signatures. Voilà.
Alors, je donne l'adresse pour l'acheter par correspondance. C'est au collectif 30 ans, ça suffit. BP 120 75 770 Paris CEDEX 16. Et je confirme que ça coûte
8 euros.
8 euros, port compris, docteur ?
Non, 8 euros achetés sur place. Pour chez qui ?
Rue Bonaparte.
Rue Bonaparte, rue Mézières.
À quel endroit de la place de la République, docteur ?
Ah oui, place Ben de la République.
À la statue.
On ne peut pas se tromper, statue.
Merci, docteur.
Merci à vous. Merci.
Alors, j'ai entendu récemment, une auditrice vous dit, j'ai entendu récemment Philippe de Villiers sur LCI, peut-être, soumis à beaucoup de questions, il a pris nettement position contre l'avortement. Voilà qui vous rassure.
Oui, alors ça, alors bravo. Bravo.
Et puis, on vous pose une question, où se trouve le mémorial pour laisser les vivre en Normandie, mais où ? Mémorial. Écoutez,
alors là, je ne connais pas bien. Non, il y a un mémorial, alors là, que je connais, qui est près de Valence, exactement à Tain-l'Hermitage.
C'est le docteur Villette.
C'est le docteur Villette, la croix 7 mètres de haut, elle est éclairée la nuit, on la voit de l'autoroute, et il y a 100 petites croix, et chacune petite croix représente 10 millions d'enfants avortés, ce qui représente 1 milliard. Mais il faudrait déjà mettre encore beaucoup, beaucoup plus de croix, évidemment. Alors, voilà, c'est un haut lieu. C'est le docteur Villette qui a fait ça, et il s'agit là de, aidez-moi, Saint-Joseph. Du Saint-Sauveur, voilà. Saint-Joseph du Saint-Sauveur, à la hauteur de Tain-l'Hermitage, qui, entre parenthèses, une chose extraordinaire, c'est le 45e degré qui coupe la France en deux. À 45 degrés, vous êtes à 5000 km du pôle et à 5000 km de l'équateur.
Et c'est la capitale du chocolat, en plus, aussi. C'est la meilleure couverture. J'en ai rien à voir, mais c'est comme ça. Merci, docteur.
Merci.
Alors, pour ne pas en finir avec Philippe de Villiers, un auditeur me dit, que pensez-vous de cette fiche positive, Philippe de Villiers ? Premièrement, l'homme a réalisé et tenu le Puy du Fou. Deux, le politique, président du Conseil général de la Vendée. Trois, l'homme d'État, vainqueur de Chirac au référendum du non.
Ministre de Chirac.
Voilà. Non, mais en utilisant deux arguments principaux, la directive Bolkestein à l'égard de la gauche et non à la Turquie à l'égard de la droite. Les deux arguments, dit cet auditeur, viennent de Philippe de Villiers. Et enfin, il a franchi le Rubicon en disant non à l'islamisation de la France. Bon, ben, c'est une opinion qui en vaut bien d'autres.
Et Besancenot est vainqueur du référendum aussi.
Hein. Et Le Pen aussi, et moi aussi d'ailleurs, parce qu'on a fait des.
On a fait du bon boulot.
Le Libre Journal a fait du bon travail, pour une fois. Un auditeur m'envoie un truc un peu
en clin d'œil, hein, dire on ne trouve pas francecourtoise.info sur le, mais seulement il tape francecourtoise.info. Alors évidemment.
Et c'est France.
Et en deux mots.
Courtoise avec un R et en un seul mot, bien sûr.
Alors non, mais c'est une occasion. Je taquine pas cet auditeur. C'est une occasion de dire que Internet c'est un outil fabuleux, mais c'est d'une bêtise, mais d'une bêtise hallucinante. Donc si vous faites la moindre erreur, ça marche pas. Donc, il faut France Courtoise, moi elle n'a pas compris, patron. Donc c'est France Courtoise.
N'aggravez pas votre corps.
Ne prenez pas l'air d'aggraver votre lèvre. L'égorgement rituel des moutons, c'est le Coran enseignant, nous dit un auditeur.
Le Coran enseignant, très bien.
C'est amusant.
C'est amusant.
On a le droit?
Oui, moi je pense que
ça va. Bravo pour votre émission. À tout hasard, je propose un texte paru en introduction du livre Les malfaiteurs publics. Document d'histoire 24 à 40. Deux points, ouvrez les guillemets. Il y a pour un pays quelque chose de pire que l'ingratitude à l'égard de ceux qui l'ont servi. C'est l'indulgence pour ceux qui l'ont trompé.
C'est pas bête.
Hein, faudra envoyer ça.
Ça laisse pas grand monde à l'abri.
Non.
Et que tu dis.
Voilà. Et puis il y a comment dirais-je, non pas un sondage, mais un calcul de la population musulmane en Europe en millions d'individus, mais ça.
Ça fait peur.
Ça réjouit, parce que c'est.
Mais attends, voilà, oui.
Les gens qui croient. Voilà, je vous donne pas le détail parce que. Je sais pas trop ce que ça veut dire.
On a juste à ouvrir les yeux, on voit très bien.
Et puis un auditeur vous fait un reproche. Pardon. Serge devrait arrêter de parler des grands journaux, terme trop positif, pardon, mais parler de la grosse presse et des gros journaux.
Bah, enfin, qu'est-ce que c'est que cette discrimination entre les grands et les gros? Pourquoi ça serait mieux d'être grand que d'être gros?
Je vous le demande.
Hein, je vous le demande, on vous le demande. Moi, je ne suis pas grand, je suis gros et j'ai pas honte.
Bravo, Serge. Hein, levez la tête fièrement.
Je fais mon outage de gros.
Non.
Enlève-toi, Fiercy Courbe.
Une auditrice.
Enlève-toi, Fiercy Courbe.
Je vais y arriver à la placer, mon auditrice.
Laissez-la parler.
Une auditrice vous dit, c'est lamentable de ricaner ainsi. Un auditeur vous dit, nous aimons Serge de Bekech, on rigole bien. Et on ne s'en lasse pas.
Bon, on ne s'en lasse pas.
Et alors,
enlassons-nous,
une question d'une auditrice innocente. Serge de Bekech pourrait-il nous dire qui est le marquis?
Oh là, bah certainement pas. Il n'y a qu'à lire son livre.
Il n'a qu'à s'abonner au Libre Journal. Il aura sa photo tous les
C'est le marquis une auditrice. Jean-Paul Chériguez de Olmeta et autres lieux découverts à marée basse. Oui. Mais dites-moi la suite parce que.
Dans le micro, camarade. Oui.
Voilà.
L'auditrice s'abonne au Libre Journal et elle aura son portrait par Redon trois fois par mois au-dessus d'une rubrique qui est absolue, une rubrique mondaine qui est géniale, qui est tordante, qui est pleine de faits que aucun autre journal ne peut présenter pour une simple raison, j'en profite pour le dire, c'est que les autres journaux, à commencer par Point de vue, L'Est du Monde et Public, les autres journaux, ils envoient des reporters et des photographes avec des téléobjectifs d'un mètre de long, seulement ils sont à la porte et notre marquis lui est invité partout. C'est ce qui nous permet d'avoir une rubrique mondaine vue de l'intérieur qui est absolument inégalable et même incomparable. Voilà, alors 110 euros, 4 places Francis, 75-010 Paris, et vous saurez qui c'est notre divin marquis.
Ça va vous coûter bonbon, marquis, cette histoire-là. Ce que je voudrais quand même, c'est que tout à l'heure, vous aviez l'air excédé. C'est l'abolition de la peine de mort qui vous excède ou...
Je vais le dire très, très sérieusement et quasiment les larmes aux yeux. Toute ma vie, j'ai été viscéralement contre la peine de mort. Et la seule chose que je trouve à peu près bien chez Mitterrand, c'est de l'avoir abolie. Maintenant qu'elle soit inscrite dans la Constitution ou pas, je m'en fous éperdument. Et le fait qu'elle ait été abolie, pour moi, c'est un soulagement de chrétien. Après, on peut en discuter pendant un moment.
Il fallait le dire.
Ça y est, c'est dit.
Au lieu, parce que vous me faisiez penser à une cocotte minute, ça fusait par tous les bords. Hein,
c'est pas vrai, j'ai pas envie de vous étrangler, ni le docteur.
Le docteur Dor, qui aurait envie de faire le moindre mal au docteur Dor?
C'est vrai.
Ou même de le réveiller.
C'est un saint. Non, le réveiller. Non, mais précisez votre pensée, Goffman, parce que.
Vous dites que le docteur Dor, je sais pas, j'essaye de dire un mot aimable.
De le réveiller aux réalités du monde. Le docteur Dor pense que le monde est bon.
Et que son objectif, c'est de le rendre encore meilleur. Mais non, le monde est méchant, il est mauvais, il est sale, il pue.
Nous en sommes là pour
ça. Et lui, il c'est, comme tout saint homme, il évolue là-dedans en voyant pas la réalité, quoi. Il voit une réalité, oui, mais pas tout.
D'ailleurs, il est parti.
C'est extraordinaire de voir la bonté de cet homme, la bonté naturelle. Et quand il prêche pour la peine de mort, c'est un paradoxe invraisemblable, parce que, en fait, si on lui disait, bon, c'est vous qui appuyez sur le bouton de la guillotine,
il dirait pas, hein.
Je pense qu'il y trouverait une explication pour pas le faire. Voilà, enfin bon, on l'aime, puis c'est tout.
Une auditrice nous demande le code postal de Feucherolles pour écrire à Jean-Pierre Grondeau.
Ben, bien
il
raison.
Nous l'a pas donné, mais je peux lui rappeler le téléphone 01 44 51 62 20.
78 200.
C'est bon ?
Oui, c'est là que j'ai appris à monter à cheval.
Ah bah c'est bon. Ça vous l'avez déjà dit tout à l'heure.
Oui.
Que personne n'ignore que notre divin marquis monte à cheval avec une assiette extraordinaire. Alors,
de moins en moins.
L'espère a été saisi de la chose.
Je suis plus souvent devant l'assiette, tu vois, maintenant. Oui.
Pas du tout, il a maigri, donc...
Bien, c'est tout ?
C'est tout.
Vous écoutez Radio Courtoisie ?
Je pourrais peut-être faire les annonces.
Pas vrai ?
Non, c'est, non, vous voulez les faire maintenant.
Alors, nous identifier pendant qu'on...
Alors, allons-y.
Il n'y a que toi qui le fais.
Oh,
au Forum de la France chrétienne, causerie de Roland Hureau sur le thème Jésus et Marie-Madeleine, christianisme et gnose. Il y en a qui vont être contents.
Miam, miam.
Causerie suivie de la signature de son livre et, miam miam, d'un repas partagé, on tirera les rois. Le vendredi 13 janvier à 20h30 à Paris dans le 5e. Inscription 08 75 28 29 15. Cramponnez-vous, site http ://. france.chretienne.free.fr. Vous avez tout noté, bravo, vous êtes fort. Courriel france.chretienne@free.fr. Voilà, vous êtes content, tout va bien.
On dirait une demoiselle du téléphone en 1840. C'est exactement ça. Non, mais c'est vrai.
C'est un très joli sketch que j'aimais beaucoup.
C'est beaucoup plus joli que le téléphone arabe. Ouais.
Alors, continuez.
Attendez, je voudrais dire quelque chose là-dessus, parce qu'on a blagué, mais attendez.
Oui. Moi, je suis vexé comme un pou, parce que ça fait des années que vous m'expliquez ce que c'est que la gnose, et j'ai toujours pas compris.
Gnose toujours, tu m'instructionnes. Justement, non, voilà. Pourquoi des fois je me mets en colère quand on me dit que je suis gnostique ou que je fricote avec la gnose et tout ?
On aimerait parce le comprendre.
Que, mais moi je comprends et ça suffit à mon bonheur. La gnose, c'est exactement ça. La gnose, c'est ce système menteur qui consiste à inventer autour des bases des réalités chrétiennes qui sont d'une simplicité évangélique, comme l'on en l'indique, des conneries à la mort le nez. Et par exemple, l'idée que Jésus-Christ et Marie-Madeleine étaient autre chose que ce qui est écrit dans l'évangile. Et ça, vous allez voir, je pense que ça va être un des grands thèmes de l'année à venir, où on va nous expliquer que Jésus avait épousé de la main gauche Marie-Madeleine et qu'ils ont eu 14 enfants et demi. Ça a été lancé par ce bouquin méphitique qui s'appelle le Code Da Vinci.
Da Vinci Code.
Qui est interdit aux catholiques, d'ailleurs. On leur signale.
Il est à l'index.
On a dit qu'il était pas bon à lire pour un catholique. Moi, je ne l'ai pas lu personnellement, mais je sais
qu'il n'y a plus d'index. Donc, il a recommandé de ne pas le lire, mais...
plus d'index depuis que l'Église a mis le préservatif à l'index, ce qui explique pas mal de problèmes.
Un peu plus seulement, oui.
Vous piquez vos blagues à la gauche.
Ben alors, je fais ce que je peux, je prends ce qui vient. En tout cas, vous allez voir, je pense que vraiment, l'année 2006 va être l'année des ragots de pissotière autour, mais c'est ça.
Bien sûr.
Il faut appeler les choses par leur nom, autour de cette histoire de Marie-Madeleine et le Christ. Si on lit les évangiles, c'est lumineux. Enfin, c'est
mais il faut y aller à cette réunion ou pas?
Ah ben bien sûr qu'il faut y aller, parce que Roland Hureau n'est pas c'est pas n'importe qui, c'est d'abord il est souvent venu à Radio Courtoisie dans l'émission d'Henri de Lesquin et de bien d'autres personnes d'excellentes venues, et il va décortiquer en quelque sorte l'opération Marie-Madeleine.
On peut peut-être préciser que le G de gnose figure au milieu du triangle, si oui. Vous voyez ce que je veux dire. Et alors quand on rouspète un peu, on dit non, ça veut dire géométrie, comme ça évidemment, oui, tout le monde est content.
Voilà, donc si vous avez un petit peu de temps, et il faut aller à cette réunion qui sera certainement passionnante, et qui, je le rappelle, est organisée vendredi prochain, 13 janvier, à 20h30, à Paris, 6 Non, c'est pas si je... C'est à Paris, c'est dans le 5e. Alors, pour avoir l'adresse, il faut téléphoner au 08 75 28 29 15. Pourquoi vous rigolez?
C'est lui, chef, qui rigole.
Ah non, mais vous serez puni. 08 75 28 29 15. Vous téléphonez, on vous donnera l'adresse.
Voilà. http://, barre de fraction.
Alto feu.
Alors, alto feu, le code postal... Pont sur le Marquis. Le code postal de Jean-Pierre Rondeau est... à Feucherolles est 78 810.
Le marquis nous a encore planté.
Si vous le savez, pourquoi vous le demandez?
Non, parce qu'il avait pris un... le jour il a monté à cheval et après un coup de pied
c'est
ça l'a
déstabilisé.
Nos auditeurs savent tout.
Oui,
voilà.
Bien, la preuve.
Musulman d'origine marocaine, pardon, dit cet auditeur, j'apprécie beaucoup ce que vous dites et ce que vous faites.
Et ben voilà, voilà. Merci monsieur, c'est très gentil, ça me fait très plaisir.
Je continue les petites annonces donc. Samedi 14 janvier à 21h à l'église Sainte-Eugène, Sainte-Cécile dans le 9e et dimanche 15 janvier à 17h à la basilique Sainte-Clotilde dans le 7e, concert avec le Tédéum de Jeanne Barbet pour l'abbaye de Lagrane.
La Grâce.
Dans
l'Aude.
De la Grâce dans l'Aude.
Voilà. Il y en est passé cette dame dans l'émission de...
Oui, on l'a vu.
Oui, voilà.
Et le concert a été donné à Notre-Dame de Grâce de Passy, déjà.
Et alors, dimanche 22 janvier, à 15h30, messe de Requiem pour Louis XVI, place de la Concorde, célébrée par les abbés Néry et Michel.
Il y a le rouge qui renaude la chef.
Voilà, il est contre la peine de mort et la messe pour Louis XVI.
Non, pas contre la messe.
C'est vraiment un rouge, hein. Ouais. Heureusement qu'il fait des bonnes chroniques mondaines parce qu'on le tuerait.
Selon certains curés, j'essaye de garder la tête sur les épaules.
Alors moi, je complète, hein.
Comme ça, parce qu'il a un mauvais caractère. Ouais.
Je complète. 21 janvier, il y a 4 messes à Paris. Une vingtaine en province. Et à Paris, donc pour la mort de Louis XVI, le 21 janvier, il y a Saint-Germain-l'Auxerrois à 12h15, place de la Concorde 15h15, Saint-Nicolas 18h30 et cortège au flambeau avec la F à 19h devant la Madeleine.
Saint-Rita 18h.
Voilà.
Et pour on me demande de redonner les coordonnées pour la galette des rois. Donc c'est le vendredi 13 janvier à Paris. Dans le 5e.
Et le site internet.
Oh là, non, vous l'aurez plus, celui-là. Terminé.
Bon, mes enfants, je suis obligé de vous interrompre parce que notre excellent ami Michel Delire s'impatiente. Il voudrait nous expliquer toutes les bonnes. Il est déjà venu le faire une fois, mais.
Écoutez.
Bis repetita placente. C'est comme ça qu'on dit ?
Oui.
Toutes les bonnes raisons que nous avons de foutre le camp à la campagne.
Il y reste.
Michel, bonsoir.
Bonne année à tous.
C'était un vieux chalet. Nous avons une jolie chatte à la radio qui s'appelle Praline. Et notre ami Michel Delire a joué le vieux chalet. Très bien.
Bon, vous écoutez va. Radio Courtoisie.
Ça vous méritait une praline.
Ouais. Ah, oui. Michel, je vous ai demandé de revenir parce que votre première intervention avait intrigué, surpris. Et puis, je crois que vous avez avancé un petit peu dans vos...
Comment dire ?
Dans ma position.
Je ne veux pas dire dans votre position, mais dans la construction de votre projet, voilà. La première idée, c'est partir à la campagne. Est-ce que c'est encore possible ? Alors, les questions subsidiaires, c'est est-ce que c'est possible ? Comment est-ce possible ? Pourquoi est-ce nécessaire ? Qui peut rêver de le faire ? Qui ne peut pas ? Il y a plein de questions qu'on peut se poser.
Si on y va en train, c'est dangereux.
Et ça dépend de quel train on prend. Mais, alors, si on prend le Melun-Paris, oui, effectivement, il y a certains risques.
Mais est-ce que c'est pas justement le train qu'a pris Michel Delire ? J'ai lu dans le Libre Journal que son association était domiciliée dans le 7-7. Alors, vous êtes venu par le Melun-Paris et vous êtes vivant ?
Je suis venu en deux chevaux parce que c'est la voiture du pauvre. pauvres.
Ah,
voilà.
Oui.
Deux chevaux. Alors, si je suis venu aujourd'hui, c'est pour reparler de retour à la terre, mais pas de retour à la terre à la façon de, du maréchal Pétain, qui prenait justement cette mesure, c'est retour à la terre en Dieu. Le progrès que nous vivons, c'est-à-dire le refus de Dieu, a détruit la société traditionnelle et nous assistons maintenant à un désastre. De plus, les mouvements politiques et traditionnels et la presse traditionnelle dont nous faisons partie analysent très bien la situation, dont le Libre Journal, dans lequel j'écris, mais finalement, il ne donne pas de solution et l'espérance de s'en sortir, à mon sens, n'existe pas. Elle existe au point de vue religieux, c'est-à-dire l'espérance, c'est le souhait, c'est l'espérance de faire son salut, mais se libérer physiquement de la situation actuelle, personne n'en parle. Alors, je pense être un des rares qui donne une solution. Et cette solution...
Personne n'en parle parce que c'est vrai que, très franchement, ça paraît... Disons le mot, ça paraît impossible. Quand on est installé dans la vie citadine, comme c'est notre cas à peu près à tous, quand on a des habitudes de confort, de facilité de vie, de paresse même, de paresse à tous les moments, c'est-à-dire on a besoin d'eau, on tourne un robinet, pour ça tombe, elle est fraîche, elle est buvable, il n'y a pas de souci à se faire. Si on a besoin d'acheter du pain, on descend en deux étages, on a une boulangerie à 3 mètres, ou à 10 mètres, ou à 30 mètres. Si on veut faire des grandes courses, on prend sa voiture, on va aussi supermarché ou au Liter, et puis on revient avec de la bouffe pour 15 jours. Alors, quand on vit comme ça depuis 30 ou 40 ans, et que d'un seul coup, on vous dit, bon, alors vous allez partir à la campagne, il fait froid, il y a des courants d'air dans les maisons, si vous voulez tirer de l'eau, il faut aller au puits au fond du jardin, si vous voulez faire vos courses, vous avez au village, qui est à 6 km, une épicerie qui est ouverte 2 heures par jour, 3 jours par semaine, vous commencez à vous dire que c'est pas très facile.
Bien sûr, parce que la situation que vous décrivez, c'est la situation, c'est l'état d'esprit passif. Or, ce que je propose, moi, c'est un état d'esprit héroïque. Héroïque parce que s'arracher à une situation de confort, qui est la nôtre, pour chercher une situation de difficulté, ça demande de l'héroïsme. Et l'héroïsme ne va pas sans la foi. Et il n'est pas question d'aller à la campagne pour planter des salades, traire des vaches et faucher le foin. On y va à la campagne pour retrouver Dieu. Ce qu'a fait Saint François d'Assise, par exemple, qui a donné l'exemple du retour à Dieu en allant à la campagne. Il a quitté Assise, où il vivait dans une situation, justement, celle que vous décrivez, de confort, de richesse. Son papa, sa maman s'occupaient de lui, il avait de l'argent autant qu'il en voulait, il s'amusait bien. Et à partir du moment où il a trouvé Dieu, il a éprouvé le besoin de le retrouver encore mieux en s'installant à la campagne. Et naturellement, en observant et en suivant l'esprit de pauvreté. Et Saint François d'Assise, c'est l'esprit de pauvreté.
Serge, est-ce que je peux compléter votre objection précédente? Oui. Une objection historique, vous avez fait référence tout à l'heure, Michel Delière, à l'expérience Pétain. Il faut se rappeler que cette expérience avait quand même les moyens d'un État moderne et que, si je me souviens bien, il y a 4000 personnes qui ont accepté les subventions qu'on offrait à tous pour faire retour à la campagne, et il y en a seulement 200 qui sont restés installés. Ça oblige à vous demander à quoi est-ce que vous allez arriver, vous, avec une association privée, si un État a connu un fiasco aussi éclatant avec son entreprise de retour à la terre.
C'est une... Parce que la situation n'est pas tout à fait la même. Du temps de Pétain, il y avait une occupation qui était une occupation allemande virile. Actuellement, nous ne vivons plus dans une situation de virilité, mais de laisser-aller, de mollesse. Et ce que je propose, moi, c'est un état d'esprit, encore une fois, héroïque. C'est toute la différence. Alors bien entendu, moi je ne dispose que d'un trésor de guerre minime, mais je pense que la situation allant se dégradant, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, mais pourquoi rester esclave quand on peut devenir maître? Et ce que je propose, moi, c'est de devenir maître, parce que quand on est propriétaire et qu'on est indépendant parce qu'on vit sur soi, c'est-à-dire qu'on vit sur ce que l'on cultive, sur les légumes, sur les salades tomates que l'on fait pousser, sur le bois que l'on abat, sur l'eau que l'on recueille à une source et, que, et qu'on utilise pour ses besoins aussi bien d'irrigation que de toilettes, ça demande évidemment de l'héroïsme, tout simplement. Voilà.
Oui, j'entends bien, mais... Est-ce que ce que vous proposez, c'est une, c'est réservé donc à une élite, c'est pas réservé,
c'est ouvert à toutes les bonnes volontés, et il faut dire que quand les bonnes volontés ne sont pas pour l'instant tellement nombreuses, c'est ouvert à ceux, aux plus intrépides, à ceux qui veulent sortir, quitter cette situation de pré-dhimmi, de pré-esclave qui est la nôtre.
Oui, est-ce qu'il y a un rapport d'ailleurs entre le fait le choix du retour à la terre et la situation actuelle des villes où les habitants sont en état de dhimmitude, vous l'avez dit, c'est-à-dire en état de soumission à une présence non désirée, et on en a eu le témoignage par exemple dans l'affaire du, on blaguait tout à l'heure autour du Paris-Melun ou du Nice-Lyon, on voit bien que il y avait 600 personnes dans le train, on a eu des témoignages, les gens n'ont pas bougé, ils se sont laissés tondre la laine sur le dos.
Ils n'ont pas bougé parce qu'ils ont une mentalité d'esclave.
Oui. Mais est-ce que vous croyez vraiment que le retour à la terre, le retour à une vie une paysanne, une vie paysanne au sens fort du terme, un peu comme Regain, comme ce qu'on voit dans le film Regain d'après Giono, est-ce que vous croyez que c'est un moyen, est-ce que c'est pas une fuite plus exactement, on abandonne les villes et les banlieues à la racaille et nous on s'esbigne à la campagne où on peut espérer qu'ils n'arriveront pas trop tôt.
Mais si c'est ça, c'est pas très héroïque à ce moment-là.
Et puis c'est trop tard, camarades, ils y sont à la campagne les autres.
Enfin, ils sont à la campagne. Bon, ne commençons pas à nous lancer sur le problème des banlieues. Le départ à la campagne, ce n'est pas un acte de fuite, c'est un acte de conquête. On va conquérir un territoire en le payant, bien entendu, parce qu'on est quand même honnête, et pour finalement se conquérir soi-même. Parce que la campagne, quand on va s'y installer sans avoir, n'être pas paysan soi-même, ça demande un effort, d'adaptation, ça demande par conséquent une situation, un état d'esprit de conquérant.
Voilà. Mais alors, supposons cette question résolue, c'est-à-dire il y a un groupe de personnes qui sont déterminées à mener la vie héroïque que vous évoquiez, qui est un héroïsme au quotidien, qui n'est pas un héroïsme de combattant, qui n'est pas un héroïsme grandiose, qui est un héroïsme quotidien. On se lève tôt, il fait froid, on se lave à l'eau froide ou à peine tiède, etc. On mange ce qu'il y a. Bon, alors, et voilà, on imagine ce que c'est la vie à la campagne, pas la campagne d'aujourd'hui où on a la bagnole pour aller faire les courses à l'hypermarché à 30 km, comme ça, non.
Pas de bagnole, alors.
Sans doute des voitures, comme disait Michel tout à l'heure, c'est-à-dire des voitures simples, solides, qui consomment peu et tout, par exemple.
C'est quasiment les Amish.
Oui, c'est ça, c'est un peu un côté Amish. Bon, supposons le problème résolu. Maintenant, il y a un autre problème qui est un problème typiquement français, où il y a une impossibilité ou une difficulté qui est typiquement française. C'est qu'aujourd'hui, si des gens comme vous et moi veulent acheter des terres agricoles, les SAFER le leur interdisent. On ne peut pas acquérir de terre si on n'a pas suivi un certain cursus qui fait de vous un paysan patenté.
Il y a effectivement des difficultés administratives, mais les difficultés administratives, on peut toujours les tourner, on peut toujours s'arranger.
Est-ce que vous croyez vraiment ça? Parce que c'est pas par hasard que ces difficultés existent. Non. Ces difficultés, elles ont été fabriquées pour détruire la paysannerie française.
Oui.
Bon, elles ont parfaitement réussi, d'ailleurs.
C'est chose faite. Hein.
C'est chose faite. Donc, si on essaye maintenant d'entamer un mouvement inverse en disant, ben, vous avez détruit cette paysannerie, ben, nous, on va la reconstituer dans sa tradition. Et ils vont vous dire, ben, allez-y, essayez. Alors, vous allez dire, on est 10 familles, on veut acheter, je sais pas combien, 150 hectares ou 300 hectares, je sais pas, je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il faut pour faire vivre 10 familles. Mais les gars vous disent non. Non, les SAFER vous diront, monsieur Machin, le président des jeunes agriculteurs ou des vieux agriculteurs ou des agriculteurs.
C'est quoi les SAFER, Serge?
Les SAFER, ce sont des sociétés qui assurent, sociétés agricoles, je vois quoi, qui assurent
le reste. Ce sont des intermédiaires entre les vendeurs et les acheteurs.
Entre les vendeurs et les acheteurs. Et qui donc s'occupent de s'assurer qu'une terre agricole ne tombe pas entre les mains de quelqu'un qui n'est pas qualifié pour l'exploiter, ce qui veut dire ne tombe pas entre les mains de quelqu'un qui n'est pas agréé les caïds de la paysannerie française, enfin de la paysannerie, de l'industrie agricole française, qui dit celui-là on en veut, celui-là on n'en veut pas, etc. Voilà. Et qui se partagent ensuite les prébendes que représentent les subventions européennes et autres. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, si vous avez la... dans cette situation, je veux dire, les affaires ne vont pas vous autoriser à faire exactement le contraire de ce pourquoi elles ont été conçues.
Évidemment, oui.
Oui, mais actuellement, le ministère de l'Agriculture est quand même inquiet, malgré tout, malgré certaines réserves qu'on peut faire sur sa bonne volonté. Ils sont inquiets de voir la désertification des campagnes, et il y a des mesures qui sont prises, tant au point de vue ministériel qu'au point de vue d'association, pour faire venir des gens à la campagne. Ça existe. Par exemple, Michel de Perfentegno organise des retours de catholiques à la campagne. Je fais sa connaissance il y a déjà 5 ou 6 ans, c'est ce qu'il fait. Donc la chose existe. Et il y a un besoin, le ministère de l'Agriculture qui a vidé les campagnes s'aperçoit qu'il est un peu trop fort et maintenant prend des mesures inverses dont il faut profiter.
Mais ça suppose que, dans la situation actuelle, que des jeunes gens de 16, 17 ans, entrent dans des lycées agricoles, ou 15 ans, ou 14 ans, entrent dans des lycées agricoles, passent le bac agricole, fassent ensuite des études supérieures d'agriculture, et puis, arrivés à 20 ans, 22 ans, 23 ans, s'endettent pour 1000 ans, parce que c'est la situation actuelle, pour acheter des terres, et se retrouvent avec obligation d'avoir, vous connaissez le problème, des tracteurs, des batteuses, des machins, tout le matériel possible et imaginable, qui leur présente un endettement phénoménal, qui va les écraser pendant des années.
Les SAFER sont les SAFER.
Mais il n'est pas question de se lancer dans l'agriculture intensive industrielle. Il est question de se lancer dans l'agriculture familiale et polyvalente, c'est-à-dire où l'on fait où l'on produit différentes céréales, différents légumes, différentes troupeaux de bestiaux, quelque chose qui est petit.
Moi je joue l'avocat du diable là-dedans.
Vous n'arrêtez pas de me lancer des objections.
Non, mais bien sûr, je suis là pour ça. Autrement, ça n'aurait pas de sens notre conversation. Si je vous présente pas les questions et les objections que les auditeurs soulèvent probablement, j'ai aucun rôle. Intéressant. Je vous donne la parole, vous parlez pendant 25 minutes, et puis vous partez, ça fait une conférence, c'est pas l'objet d'une émission. Moi, ce que je veux, c'est qu'on aille au bout des choses, c'est ça qui est intéressant. Et bien, par exemple, quand vous dites ça, je vois bien, je partage votre rêve, pas pour moi, parce que moi, via la campagne, je meurs au bout de 3 jours, mais je meurs de froid, d'ennui, de tout ce qu'on veut. Pour moi, la campagne, c'est un endroit joli pour se promener, c'est pas un endroit pour...
La vue d'un radis me donne la nausée.
Mais, excusez-moi, ce que je veux dire, c'est que quand vous nous parlez d'une nous donner l'image bucolique, pas forcément idyllique, mais bucolique d'une famille vivant, enfin c'est la famille, je sais pas comment ça s'appelle, la petite maison dans la prairie, hein, une maison, une grange, quelques bêtes à cornes. Donc on prend le mari, c'est sûr, des enfants, un puits où on va chercher de l'eau, et puis un carré de radis, un carré de tomates. Bon, ça c'est très joli. Je suppose que vous savez par exemple que si vous faites un champ de blé pour votre consommation personnelle, que vous semez du blé pour vous nourrir, vous ne pouvez plus semer du blé qui va vous permettre de recueillir à la fin de la récolte la semence pour l'année prochaine. On vient chez vous, on vous saisit la semence, on la détruit, et on vous oblige à acheter une semence nouvelle.
Vous êtes vraiment un peu noir. Écoutez, la description de la ferme bucolique dont vous parlez, c'est exactement ce que je vis chaque jour depuis 40 ans. Moi, j'ai une ferme bucolique, j'ai des oies, j'ai des lapins, j'ai des corbeaux aussi qui viennent me rendre visite, et j'ai mon carré de radis, dont vous parliez à l'instant, j'ai mon carré de salade, j'ai mes légumes, j'ai mon bois avec lequel je me chauffe, j'ai des arbres qui poussent, et quand ils sont du grand, je les coupe et je me chauffe avec. Et ce que vous trouvez, moi j'ai pas eu d'objection de la part de la SAFER ou d'autres organisations ministérielles. Je me suis installé là et on ne m'a jamais rien dit. Alors je ne sais pas, vous allez chercher toutes ces complications administratives, vous les inventez alors.
Mais non, moi j'ai eu un jour j'ai invité une dame ici qui est venue pour parler des pommiers. Il y a en France, il y avait je ne sais pas combien de centaines de sortes de variétés de pommiers. Mmh. Et cette dame est venue nous expliquer dans cette émission il y a longtemps, il y a peut-être 15 ans, elle est venue nous expliquer que les services du ministère de l'Agriculture venaient chez les gens qui avaient des vergers où il y avait des pommiers qui n'étaient pas en quelque sorte agréés, et ils les abattaient en disant ça vous n'avez pas le droit.
Je sais pas, cette dame-là vit peut-être dans une planète particulière, mais moi j'ai un verger depuis déjà 30 ans.
Combien d'arbres?
Alors j'ai environ 14 ou 15 pommiers,
une dizaine de poiriers. Pour attirer l'attention.
C'est à ça que je voulais en venir.
Moi, je ne vous propose pas d'exploiter une ferme de 100 hectares. J'estime qu'avec 4 hectares, une famille, si elle se débrouille bien, peut vivre.
4 hectares.
Voilà. J'ai 3 hectares.
2-3 personnes, 4 personnes.
Pour 3-4 personnes, on vit. On vit avec 4 hectares. Il faut pas croire qu'il faille 100 ou 200 hectares pour vivre.
Est-ce que vous touchez une retraite, Michel Delire?
Les gens qui ont 100 ou 200 hectares, ce sont des esclaves. Ils travaillent comme des bêtes.
Mais
vraiment.
Vous touchez une retraite quand même.
Ah, moi, c'est ma retraite, oui.
Donc vous ne pouvez pas dire que vous vivez de votre ferme de 4 hectares, qui n'en a d'ailleurs qu'un seul, intégralement.
Non, j'ai 3 hectares.
Vous avez 3 hectares? Donc vous pouvez pas dire que vous en vivez et inciter des jeunes gens qui n'ont pas une retraite comme la vôtre à aller essayer de vivre sur 3 hectares. Comme on n'a jamais pu le faire d'ailleurs à aucune époque.
Parfaitement. C'est simplement parce que, étant donné que j'ai une retraite comme vous dites et que je n'ai pas encore la capacité, je ne suis pas encore un paysan à 100%. Je ne le suis qu'à 50% et peut-être 45%. Je vis donc en partie de ma retraite et en seconde partie du travail des récoltes que je fais sur mon terrain. C'est pas pareil. Et moi, je ne propose pas aux gens. Tout reste dans si vous lisez, comme je l'espère, le Libre Journal, dans le dernier article du numéro 366, comment quitter la ville, il est bien spécifié qu'une famille qui veut s'installer à la campagne et vivre à la campagne en montant une ferme doit conserver, si possible, un métier. C'est-à-dire, il y a un métier à l'extérieur de la ferme et l'autre conjoint travaille à la ferme elle-même parce qu'au départ, pour pouvoir vivre en s'adaptant à une nouvelle vie de paysan, il faut qu'un laps de temps se passe pour s'habituer. Parce qu'on n'apprend pas du jour au lendemain devenir paysan.
C'est-à-dire que quand vous dites, ça c'est clair, mais quand vous dites vivre sur votre terre, ça veut dire
en autarcie,
oui. La viande, par exemple.
Bah voilà, oui.
Vous la produisez vous-même, vous avez les poulets?
Dans
le projet.
Mais jusqu'à il y a encore 30 ou 40 ou 50 ans, et depuis 2000 ans, les gens vivaient comme ça. Les paysans vivaient sur leur terre. Je vis sur moi. Vivre sur soi, c'est produire tout ce dont on a besoin pour vivre.
Ça, c'est
le surplus, on va à la foire.
Ça s'appelle l'autarcie et l'URSS en est crevé.
Et
l'URSS, un sixième des terres émergées, en est crevé de l'autarcie.
Oui, enfin, aussi parce que l'État prenait.
On peut comparer un pays de plusieurs centaines de millions d'habitants.
Non, justement pas.
Moi, ce que je propose, ce n'est pas la réforme de la France, c'est la réforme de certaines familles volontaires. C'est pas pareil.
Catholique et héroïque. Effectivement,
c'est vrai
qu'avec Serge, on vous présente des objections qui tapent un peu à côté, dans la mesure où c'est vrai que le projet de Michel Delière est pas une réforme globale.
Absolument.
À partir de l'instant où dans toute démarche tu mets le mot héroïque, tout devient possible.
Moi je trouve ça extrêmement intéressant. Je trouve que c'est un projet magnifique. Pour moi, il se heurte à des difficultés pratiques, matérielles, administratives, légales, tout ce qu'on veut. Il se heurte aussi à des difficultés de caractère humain. Par exemple, un auditeur qui a l'air de connaître la chose nous dit: avez-vous l'intention de former une société coopérative d'actionnaires ayant pour objectif le financement de ce projet afin que chaque membre puisse devenir propriétaire de sa maison et de son jardin? Première question. Deuxième question. question. Avez-vous pensé à la production rotative des produits du potager et du verger afin que tous les fruits et légumes puissent être représentés et partagés entre tous? La même question se pose au sujet du bétail et de la ferme, etc. Donc lui, ce qu'il voit, d'une certaine manière, c'est la phalanstère. Or, on sait, alors là, de façon vérifiée depuis 2000 ans, que les phalanstères, ça finit généralement dans un bain de sang.
Mais vous avez tout à fait raison. Et il n'est pas question de phalanstère. La famille que, enfin, patriarcale que je propose doit devenir propriétaire de sa terre et la léguer à ses enfants. C'est ça le projet. Et maintenant, pour parvenir à ce projet, peut-être qu'au début, il faut qu'il faille adopter une certaine forme collective au début. C'est-à-dire peut-être prévoir par exemple, une société civile qui achèterait une terre où chacun aurait une part. Mais le but, c'est ensuite que chacun habite chez lui sur sa propre terre et devienne propriétaire de sa propre terre. C'est comme ça que les Français ont toujours vécu depuis, je vous dis, 2000 ans, et c'est ça qu'il faut restaurer.
Oui, mais bien sûr, je sais bien que les Français ont toujours vécu comme ça pendant 1789 ans. Mais justement, tout le système depuis deux siècles consiste à dire aux Français, c'est fini ce truc-là. Maintenant, c'était le projet Pisani des agropoles, hein, en disant maintenant on va faire des terres horizontales qu'on cultivera, et les paysans, on les installera dans des maisons verticales, c'est-à-dire on va construire des barres HLM au milieu des champs, hein, et le matin, tous les ouvriers descendront, les ouvriers agricoles descendront, ils feront leurs champs et tout. C'est comme ça qu'ils ont tué l'agriculture. C'est un plan d'ailleurs
de destruction,
qui a été mis sur pied par la synarchie, on le sait. Alors je sais, quand on dit la synarchie, les gens bien informés se marrent, mais la synarchie, c'est une réalité, ça a existé, elle a été au pouvoir en France depuis avant-guerre, elle a été au pouvoir en France après-guerre, et elle est probablement encore au pouvoir sous des formes nouvelles, qui sont le mondialisme notamment. Mais alors c'était de transformer les hommes en robots agricoles, ou en robots industriels, ou en robots enseignants, ou en robots élèves, recevant une vérité toute faite, etc. Et puis voilà. Ça, c'est comme ça qu'on a détruit, non seulement l'agriculture, mais probablement l'industrie, mais évidemment l'artisanat, mais évidemment le petit commerce, mais évidemment l'intelligence française, tout ce qui faisait le talent des Français, c'est-à-dire une espèce de côté prime sautier, capable de plaisanter avec les choses graves et de dire des choses graves sur les choses amusantes, etc. Et ça donne des résultats avec des auditeurs qui nous disent arrêtez de ricaner. Voilà. Ça donne des gens formatés avec un esprit complètement bétonné et tout. Et si ces gens-là sont prêts à tout pour empêcher que renaissent ceux qu'ils sont arrivés à détruire.
C'est possible, mais ce que j'ai proposé, je vous l'ai dit au début de mon intervention, le paysan doit devenir un seigneur, maître de sa terre, propriétaire et exploitant sur sa propre terre, mais en voyant petit. Il n'est pas question de vouloir se lancer dans l'agriculture industrielle, encore une fois. Il faut se lancer dans l'agriculture petite, bio, biologique.
Alors, le projet, on le voit, je crois qu'on a opposé des
objections.
Des objections, qu'on a posé des questions, vous avez répondu. Maintenant, ce qui est intéressant, parce que il faut aller de l'avant, c'est de dire de quelle façon vous agissez-vous, alors non plus en tant que 45% paysan, comme vous le disiez tout à l'heure, dans votre petite maison bucolique, petite maison dans la prairie, mais comme animateur d'un projet. Alors, est-ce que vous avez créé une association? Est-ce que vous avez créé un mouvement? Est-ce que je peux révéler aux auditeurs que vous allez créer une chronique dans le Libre Journal qui soutiendra votre action?
Bonne question. Alors, j'ai créé une association qui s'appelle tout simplement, tout bonnement, le mouvement néo-paysan de tradition, et qui est domicilié au refuge. Ça s'appelle, l'adresse est Le Refuge, 77 540 Bernay-Ambry, B-E-R-N-A-Y, Ambry comme le fromage, et le téléphone, c'est le 01 64 25 61 57.
Voilà. Alors, il faut répéter, s'il vous plaît, parce que je suis sûr que beaucoup d'auditeurs vont le demander.
Mouvement néo-paysan de tradition, adresse Le Refuge, 77 540 Bernay-Ambry, ce n'est pas Bernay dans l'heure, mais Bernay-Ambry, téléphone 01 64 25 61 57. Voilà mon adresse.
Alors, cette association néo-paysan de tradition, Quels sont ses statuts? C'est une association
nidatoire? Pour l'instant, il n'y a pas de statut parce que c'est en voie de formation. Elle a été formée le 21 septembre 2004 grâce à vous, puisque elle a été fondée ce jour-là. Et elle évolue tout doucement par des communications finalement personnelles, par des courriers que je reçois, par des personnes qui sont volontaires pour se lancer dans l'aventure, mais qui évidemment, pour l'instant, demandent encore à réfléchir, et ils attendent d'avoir davantage d'informations, ce qui va se faire bientôt, puisque je vais publier un bulletin, le bulletin numéro 1 va apparaître ce mois-ci, et je l'enverrai déjà à toutes les personnes qui m'ont contacté. Voilà, ça commence comme ça. Et ensuite, selon votre conseil, je vais monter un site internet pour pouvoir communiquer plus facilement. Voilà, alors il y aura toutes les conditions voulues, et ces conditions seront donc optimum si vous me donnez de temps en temps la parole.
Mais moi, je vous donne la parole, on en est convenu, je vous donne la parole dans le journal, parce que c'est une expérience qui me paraît intéressante et porteuse en tout cas de nouveautés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que des idées nouvelles fleurissent.
Et la nouveauté, c'est l'espérance. La nouveauté, c'est l'espérance.
Ça, je comprends très bien. Mais il faut quand même... Je vous donne la parole tout de suite, Victoria, pour les questions. Mais
les questions,
je crois que...
Ou
les commentaires. Je crois qu'il faut que vous nous disiez, par exemple, si vous avez une idée de la façon dont ça va fonctionner, est-ce que, quand vous allez réunir suffisamment de monde avec un apport financier, vous allez acheter des terres, que vous allez... est-ce que vous allez créer une société agricole? Est-ce que vous allez créer... Je ne sais pas, une...
Je pense à une société civile.
Une société civile.
Je pense à une société civile. Mais d'abord, étant donné que ce mouvement est d'essence religieuse, j'ai demandé un rendez-vous à monsieur l'abbé Régis de Cacré, supérieur de la fraternité Saint-Pilis, et je vais lui présenter mon projet. Alors, il ne m'a pas encore répondu, et selon ce qu'il dira, je marcherai avec la fraternité si elle accepte mon initiative, et si elle ne l'accepte pas, ou bien si elle me répond de façon dilatoire, eh bien j'agirai autrement.
Je aussi que c'est pas dans leur corde. Si vous avez besoin d'un prêtre, ils vous en enverront un quand vous aurez constitué votre village, pour l'instant...
Parce que étant donné que c'est un mouvement religieux, il faut donc qu'il y ait un prêtre qui va vivre au moins une fois par mois pour donner la messe et distribuer les sacrements, les confessions, etc. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, au début, ça sera une formation un petit peu collective, mais dès que la situation le permettra, il faudra songer à ce que chacun soit chez soi. C'est ça le but. C'est-à-dire recréer le village traditionnel.
Collectif à Bernay, 7-7, à 10 km de Paris, je ne comprends pas. Rassembler les gens autour de votre siège dans le 7-7?
Alors, absolument pas. Non, moi, je me suis installé à 50 km de Paris, mais c'est une situation qui n'est pas pour moi satisfaisante parce qu'elle est beaucoup trop près des villes.
De Disneyland.
Qui est en train de tomber en faillite.
Il va y avoir des terres à racheter, là, d'ailleurs.
Des terres agricoles, d'ailleurs.
Et le problème n'est pas là. Le problème, c'est ou bien... Monsieur l'abbé Régis de Cacré me donne son agrément et on achète, on commence à acheter une terre dont la fraternité sera propriétaire, ou bien il refuse, et dans ce cas-là, on montrera une société civile qui deviendra un propriétaire, mais toujours avec la présence d'un prêtre. Toujours parce qu'il est là pour avoir l'autorité spirituelle, ecclésiastique, sur le mouvement, sur le village,
bien.
En développement.
Il nous reste 10 minutes pour donner la parole aux auditeurs sur ces questions-là.
Avec plaisir.
Victoria.
Vous écoutez Radio Courtoisie.
Une auditrice, aller vivre à la campagne, c'est retrouver ce qu'on a perdu pour vivre libre en France, c'est-à-dire sa responsabilité. Témoignage, un couple de retraités retirés à la campagne en Normandie, ce nouvel environnement est dur. Pas de médecin à proximité, pas de prêtre, 33 paroisses regroupées, nécessité de conduire une voiture, coupure de tout ce qui se passe à Paris, conférences, réunions, etc. Nous sommes musiciens, cela nous aide. Autre témoignage, j'ai 45 ans, un bout de terrain en Lozère et 6 enfants, abonnés au Libre Journal. Ah. On lit donc régulièrement.
Comment de Lozère vais-je assurer les études de mes enfants et financer les études de mes enfants?
Je peux répondre?
Non, pas tout de suite.
Ah bah, si, monsieur, là, en deux mots. On va pas y arriver. Je crois qu'il a rapidement.
Alors, pour la question d'offrir des études à des enfants, l'agriculture a besoin de bras. L'agriculture n'a pas besoin de cerveau plein, elle a besoin de bras et de croyants. Par conséquent, il n'est pas nécessaire, selon moi, que les enfants suivent des études littéraires ou scientifiques dans un lycée. Non, tout simplement.
Je vais lire, quoi. Serge de Becquet se fourre le doigt dans l'œil. Le retour à la terre n'est pas le retour à l'âge de pierre. Je connais un jeune couple qui a été reçu par Benjamin Guillemin récemment. Ils sont ingénieurs, fabriquent leur électricité, recueillent leur eau, etc. et élèvent leurs enfants sans problème. Autre témoignage. Dans les années 50-60, une ferme de 25 hectares avec basse-cour, cochons, vaches, une famille de 6 personnes où tous faisaient paisiblement, vivre une famille de 6 personnes où tous travaillaient dur, parents et enfants. Les SAFER interviennent lors de l'achat d'une terre agricole. Pour l'exploiter, il faut passer devant la commission des structures, organismes départementaux, où 40 personnes, notaires, agriculteurs, syndicalistes, etc., décident d'accorder ou non leur autorisation. C'est un comité soviétiforme, mais hors de cela, point de salut.
Rien à foutre de l'administration.
Ah, d'accord.
Bravo.
Là, je suis tout à fait d'accord.
Dieu est à la base de ce projet. C'est excellent, mais... faut-il être impérativement traditionnaliste?
De préférence, oui, absolument.
Monsieur Michel Belière, matériellement, cela suppose d'avoir de l'argent au départ. Sinon, comment faire?
J'ai une retraite de professeur d'éducation physique, de l'enseignement secondaire, et au cours de ma vie, j'ai fait des économies et constitué, je l'ai déjà dit, un petit trésor de guerre que j'offre à cette nouvelle communauté.
Je suis étonné.
Au moins, je peux dire que c'est pas, on est au moins sûr que c'est pas une combine pour gagner du fric.
Pour
en perdre, en revanche, oui.
Mais moi, je veux pas gagner d'argent.
Je crois que je l'avais compris depuis un moment, figurez-vous.
Je suis étonné.
Vous avez suffisamment avec vos piges du Libre Journal.
Hein, je suis étonné de l'hostilité que soulèvent les propos de Monsieur Delière.
Mais non, c'est pas de l'hostilité.
C'est louche.
C'est incroyable quand même. Mais écoutez, faites un effort de discernement. C'est pas de l'hostilité. Et pour faire sortir l'idée, il faut chatouiller. Il faut. Si je donne à Michel la parole en disant, exposez-vous.
Ça se trouve, c'est les mêmes personnes qui trouvent Fogiel génial. Alors, faudrait peut-être arrêter.
Hein. C'est les radis.
Je vous donne la parole 20 minutes après. Bon, c'est fini. Merci. Voilà. Au revoir, on est tous. Bon, c'est pas comme ça que ça passe. Il faut exciter l'intelligence.
Mais je suis très content de la forme de cet entretien. Moi, je suis ravi. Je vous réponds, c'est
du boulot. Enfin, c'est vrai qu'il faut bien avoir. Il a le dos qui saigne avec toutes les banderies qui lui ont été plantées depuis tout à l'heure.
C'est pas des banderies, c'est des questions.
Laissez-la parler.
C'est désagréable que vous vous moquiez de votre invité. Oh. Pourquoi alors l'avoir invité?
Non seulement invité, mais collaborateur au Libre Journal depuis 9 ans.
Bravo.
J'étais le premier à dire à Michel, faites une rubrique dans le fait, une chronique dans le journal sur ce projet qui me plaît. Alors, je ne veux pas me moquer de lui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais ils sont sourds, ma parole. C'est pas vrai, ça.
Bravo.
La seule radio qui est écoutée par des sourds.
Bravo.
Radio silence.
Bravo à Monsieur Delière. Il n'a peut-être pas 50 ans de retard, comme vous le dites, mais peut-être bien 10 d'avance.
Et ben voilà. Et c'est ce que je crois, exactement.
Est-ce que ce mouvement...
Il a des amis, en tout cas.
J'ai une propriété en Normandie et j'aimerais avoir autour de moi ce même esprit. Bon, elle va vous écrire pour s'inscrire. Je suis moi-même agricultrice et à 60 ans, la SAFER n'a pas pris mes terres à un prix fixé par elle pour les redistribuer à d'autres agriculteurs. Ma sœur et moi avons été dépossédés. Je crois que M. Delière rêve beaucoup. Bon, il y a un livre écrit par un Anglais, John Seymour, qui avait déjà, dans les années 50, eu recours au retour à la terre. Et son livre, The Fat of the Land, raconte ses débuts à la ferme et ensuite ses expériences. Son livre est un véritable cours de fermage. Comment un journaliste comme lui est devenu fermier?
On peut lire aussi L'œuf et moi de Margaret McDonald.
À propos d'anglais, oui. Est-ce qu'il est normal qu'on l'autorise, moi je ne dis rien contre l'Angleterre, hein, malgré Jeanne d'Arc,
moi aussi, oui.
Mais il n'y a aucune raison qu'un nombre important d'anglais se soit installé, particulièrement dans le Périgord, et pourquoi des Français n'iraient pas coloniser la France? Qu'en dites-vous ?
Mais oui, je suis tout à fait d'accord, mais vous savez, c'est un vrai problème. Je vais très très souvent en Vendée, et dans le sud de la Vendée, et qu'est-ce que je vois ? Je vois que les gens qui arrivent à, disons, 60 ans, 70 ans, mettent leur maison en vente, souvent pour partir dans une maison de repos, ou une maison de retraite, sont des Anglais qui achètent. Et les mêmes gens qui vendent, je l'ai déjà dit à ce micro, les mêmes gens qui vendent leur maison à des Anglais parce que les Anglais payent plus cher, viennent vous dire après, vous comprenez, c'est incroyable, on ne trouve plus une maison pour loger nos enfants et nos petits-enfants. Forcément.
Permettez-moi, vous avez dit exactement ce que je voulais dire sur mon petit village des Jets, où tout est anglais, parce que les braves paysans qu'on nous décrit merveilleusement bien, eh ben, ils n'ont qu'un rêve, c'est de vendre au plus cher, au plus offrant.
C'est normal.
Voilà, donc alors, ben, comme c'est les Anglais, ils vendent aux Anglais, et aux Hollandais en plus.
Et qui pourrait leur en vouloir ?
En Savoie, personne.
Est-ce que les 20% de jachère ordonnés par la CE pourraient être récupérés par cette innovation?
Je crois pas, parce qu'ils sont en jachère, elles sont en jachère.
Mais la question n'est pas la même dans les grandes plaines, dans les grandes plaines de culture intensive, et dans les propriétés qui sont juchées dans les hautes vallées. C'est pas tout la même culture, c'est pas le même esprit.
Alors je crois que Michel, on va pas pouvoir répondre à toutes les questions parce que dans 3 minutes, de toute façon vous allez revenir, vous allez dans le Libre Journal, vous pourrez exposer votre projet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va redonner l'adresse de votre association de néo-paysans de tradition.
Maintenant ?
Victoria va le faire.
L'année prochaine.
Néo-paysans de tradition, le refuge 77540 Bernay en Brie. Voilà. Et le téléphone 01 64 25 61 57.
Donc si vous voulez poser des questions à Michel, ou vous lui écrivez à cette adresse, ou vous lui envoyez une lettre au Libre Journal, 4 Place Franchelit, on lui transmettra.
75 010 Paris. L'abonnement annuel 110 euros.
Il y a un petit peu différent comme réaction. Monsieur Delia, vous êtes bien gentil, mais je ne me déculotterai pas devant l'envahisseur. J'habite la Goutte d'Or et jamais je ne partirai. Ceux que vous voulez fuir, vous les retrouverez tôt ou tard dans les petits
villages. Ils y sont déjà, ils y sont.
Il ne faut pas fuir devant eux, mais les combattre. C'est pourquoi c'est nous qui sommes chez nous et pas eux. Et puis, le travail, c'est dans les grandes villes qu'il existe. Voilà.
Voici la réponse. C'est tiré de Marc 13-14. Lorsque vous verrez l'abomination et la désolation établie où elle ne doit pas être, que celui qui lit comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes.
Ah, c'est bien une fuite alors que vous proposez. Vous disiez le contraire tout à l'heure.
Écoutez, on va pas jouer sur les mots.
Il est méchant.
C'est une mesure de prudence. C'est une mesure de prudence et d'espérance en même temps. Prudence, espérance, héroïsme, foi.
Alors,
voilà.
Héros, tous avec moi, fuyons. Je vous propose un mot d'ordre.
Tout à l'heure.
C'est terminé.
Non, une minute. Tout à l'heure.
Quelle autorité.
Je viens de le voir faire le geste.
Encore une minute.
Alors, ne me perdez pas mon temps. Vous avez parlé tout à l'heure des 600 personnes qui n'ont pas bougé, comme disent les médias aux ordres. Mais c'est difficile de bouger contre les couteaux, cutters, etc. Et quand on bouge, on va en prison. Je vous aime beaucoup, mais là,
c'est
je ne suis pas contente.
Mais c'est ce que j'ai dit.
Justement, c'est trois auditrices qui vous aiment, mais quand même qui.
Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, on peut pas leur reprocher de pas avoir bougé, puisque de toute façon, la loi le lui interdit, et que on a foutu en taule un flic qui avait giflé un voyou qui lui crachait au visage. Alors à partir de là, les flics sont là, enfin la loi est là pour nous empêcher de nous défendre. Merci de nous avoir écoutés. Dans 15 jours. Non, la semaine prochaine.
Si, dans 15 jours, pas la semaine prochaine.
Que Dieu nous garde.
Dit au revoir, Serge.
J'ai dit au revoir, je le répète. Bonne semaine, bonne quinzaine. Que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris, sur 95,6 MHz. À Caen, sur 100,6 MHz. J'ai dit la virgule. À Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 11 janvier de 18 à 21h, en différé jeudi 12, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par...